Et si pousser un chariot de 150 kg était la meilleure façon de guérir de l'anxiété? L'idée folle d'un spécialiste du mouvement, reconnu des crossfitters d'élite, powerlifters et strongman? Pas seulement, puisque Julien Pinault travaille avec la prestigieuse Université de Californie sur les liens entre l'entraînement de force et la réduction des erreurs somatiques à l'origine de l'inflammation et du stress chronique. Une perspective passionnante où le corps humain apparaît comme un système global, dont les émotions ne sont qu'une extension du système immunitaire pour se protéger de son environnement. Tout est lié, même l'alimentation, où la viande devrait être réservée au dîner, les glucides à l'entraînement et les graisses à nourrir le cerveau. Tel un instrument qu'il faudrait réaccorder, Julien partage des idées nouvelles pour permettre à nos cellules de jouer leur plus belle symphonie. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Salut Julien.
Bonjour.
Alors dis-moi, est-ce que tu as une petite routine matinale? Qu'est-ce que tu as fait ce matin pour être en pleine forme, pour enregistrer ce podcast avec moi?
Je fais toujours la même chose. Donc j'ai certains exercices où je fais 100 répétitions d'affilée. Tu vois ce que je veux dire? Donc je commence avec le bench et je prends une barre à vide et je fais 100 répétitions le matin. C'est de manière toujours, tu sais, à avoir une bonne activation du corps. Donc je fais ça. Je fais ça pour le squat, je fais ça pour certains exercices comme ça. Ça commence ma journée et ça me permet de bouger correctement, quoi.
En fait, c'est même pas ta séance de sport, c'est vraiment juste pour te mettre en activité, quoi.
Ouais, ça compte pas. Ça compte pas comme session. J'en parle très peu parce que, en réalité, je le compte pas du tout comme session, quoi. Donc, en fonction, tu sais, de hier, si les épaules sont pas contentes ou un truc comme ça. Mais de toute manière, c'est 100 répétitions comme ça, 100 répétitions au squat et peut-être un truc en plus. J'ai mes pec sticks, tu sais que j'adore travailler avec ça. Donc, je prends mon pec stick et je fais 50 répétitions comme ça, les trucs comme ça, juste pour m'assurer que tout soit en place dès le départ. Comme ça, je bouge correctement dans la journée et j'ai mon entraînement généralement à 2-3 heures de l'après-midi. Je suis plus fort à 3 heures que le matin, c'est pour ça, quoi.
Ok. Moi aussi, j'aime bien, tu vois, démarrer la journée avec soit un peu de mobilité ou alors, avec la méthode Wim Hof, tu fais les pompes en apnée, c'est assez marrant. J'aime bien aussi les kettlebells, les swings, etc. Vois, en 15-20 minutes, tu t'actives et ça change vraiment la dynamique de ta journée, je trouve.
Complètement. Oui, j'ai des exercices de poids de corps que j'aime bien faire. Tu sais, mais le premier, c'est pas l'entraînement, donc très facile. Je mets, tu sais, le power wheel, l'espèce de roue sur les pieds, là. Puis ouais. Je bouge vers l'avant, vers l'arrière. Mais des trucs vraiment, tu sais, très simples. Je force rien. Donc, sans répétition, la barre à vide, tu vois ce que je veux dire. Je peux en faire probablement 140, 150. Pas grave. À 100, c'est bon. Tout bouge correctement. En plus, ça me dit un peu si je vais avoir des problèmes ce jour-là ou pas, quoi, avec certaines choses, tu vois ce que je veux dire. Ouh, j'ai l'épaule à gauche qui est, ça bouge. Parce que peut-être l'entraînement, tu sais, du jour d'avant ou, bref, t'as dormi bref. Ça me permet aussi de voir où je suis de ce côté-là. Donc ça, et comme ça, je me prépare mentalement pour mon entraînement à 3 heures qui est, j'aime pas arriver à l'entraînement, tu sais, froid mentalement. Comme ça, j'aime bien commencer à penser à mon entraînement 2-3 heures avant de commencer, quoi.
Et si tu t'aperçois que tu as une tension, une limitation dans une de tes articulations, quelque chose qui n'est pas habituel, tu vas le travailler spécifiquement ou c'est juste pour avoir cette conscience-là avant de faire ton entraînement?
Non, parce que de temps en temps même, je change. Par exemple, aujourd'hui, je suis censé faire tout ce qui est press, tu vois, donc avec, tu sais, le dumbbell, like, tout ce qui est strongman press, quoi. Et par exemple, je me réveille ce matin, si mon épaule n'est pas contente, ça sera peut-être le jour du deadlift, alors. Tu vois ce que je veux dire?
Okay.
Et le press, il y a des jours, je change parce que je vois bien que c'est... Si je peux pas me donner à fond dans un entraînement, je préfère ne pas le faire. Je fais pas le travail à 70%. C'est soit je m'entraîne à fond, soit je le fais pas. Donc si j'ai besoin même, je m'entraîne pas cette journée-là. Mais pour moi, il n'y a aucune utilité d'arriver à l'entraînement à 70%.
Et tu disais que t'aimais bien t'entraîner dans l'après-midi vers 2-3 heures de l'après-midi. C'est une spécificité personnelle ou ça c'est la résultante de ton étude des rythmes circadiens, des pics hormonaux, etc.
Non, je pense que c'est plutôt personnel parce que j'ai vu des gens qui se donnent vraiment bien le matin. Tu vois ce que je veux dire, tu vois bien 4-5 heures, ils commencent à tomber. Alors moi, vraiment à 5 heures, c'est là entre 3 et 5, c'est là où je cartonne le plus. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours, même comme genre quand j'avais 6 mois, on m'a dit, je vivais presque la nuit. Donc, j'ai toujours été décalé de ce côté-là, plutôt vers le soir, toujours.
Ouais, après ça c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il peut évoluer aussi au fur et à mesure du temps. Moi quand j'étais jeune, j'étais plutôt un oiseau de nuit, je me couchais très tard et je me levais très tard et en même temps j'avais beaucoup d'addictions à cette période-là. Et aujourd'hui à l'inverse, je me couche tôt et je me lève très tôt et le matin, c'est là où je suis le plus productif d'un point de vue intellectuel, pas d'un point de vue physique hein, mais d'un point de
Ouais,
vue
c'est pas
intellectuel
la même
et du
chose
coup depuis
pour
que
moi.
j'ai pris conscience de ça, tu vois, j'ai vraiment changé l'organisation de mes journées de telle sorte à
Oui.
utiliser mes facultés mentales pour les choses vraiment prioritaires, les choses de fond, donc c'est-à-dire pas répondre aux mails, pas répondre aux sollicitations,
Oui,
mais
on est d'accord.
faire des
Oui,
choses qui font vraiment avancer en
100%.
profondeur
Ouais.
mon business, mes
Ah, ça
recherches,
va être
etc.
vrai pour tout le monde en parlant de ça. Parce que, par exemple, moi, j'adorais me lever, tu sais, je ne pouvais pas me lever avant 8-9 heures. Et puis j'ai eu ma fille, puis il fallait qu'elle aille, tu sais, à l'école le matin, donc il fallait se réveiller tous les jours à 6h45. Les 2 premières années, j'ai souffert, puis je me suis habitué, et maintenant, je me lève à 6 heures tous les matins, de toute façon. Mais c'est vrai que tout ce qui est production mentale, le matin est beaucoup mieux. Et je crois que tout le monde serait d'accord de ce côté-là. Par contre, je peux pas m'entraîner le matin, toujours. Ça n'a pas changé. Enfin, je peux, mais c'est pas la même chose, quoi.
Et
Mais.
comment est-ce que tu je sais que tu as une en tout cas tu avais une façon particulière de manager ton alimentation au cours de la journée, justement eu égard à ces rythmes circadiens et à cette harmonisation hormonale. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc là le matin tu te réveilles, tu fais ces 100 bench etc. Et après qu'est-ce qui se passe d'un point de vue alimentaire?
Donc je commence avec le café parce que j'adore le café. Si j'ai un vice, c'est le café, l'expresso. J'ai une machine professionnelle là, et donc c'est toujours ça. Et je mets du heavy cream. Comment ça se dit en français?
De l'huile de MCT,
Non.
de
Tu sais,
l'huile de coco.
la crème, c'est pas du lait, c'est de la crème. Tu sais, à 35% de matière grasse.
Ouais, le lait de coco, là, la crème de coco, non?
Non, 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 c'est du
Ah
lait
non,
à
de lait.
35%.
Ok,
Ouais,
ok.
c'est une crème basée sur le lait à 35% de matière grasse. Donc, c'est comme ça que tu fais la chantilly. Tu prends cette crème-là et tu la montes.
Ok.
Donc, c'est, bref, donc, tu sais, saturé de fat, donc c'est graisse saturée à fond, quoi. Ça avait commencé avec une idée. Que la nourriture ingérée n'est pas la nourriture digérée.
Bien sûr.
Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Ce qui importe, c'est pas manger, c'est pouvoir digérer et apporter tous ces nutriments au corps. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, quoi. J'ai OK. Donc la digestion est importante. OK. Donc en parlant de ça, qu'est-ce qui pourrait augmenter la qualité de la digestion ou de l'autre côté, j'ai OK. Donc, par exemple, le nerveux système est très important par rapport à ça. Si on est du côté sympathique, on va moins bien digérer. Ça se sait depuis 150 ans. C'est une question, tu sais, de sang qui n'arrive pas jusqu'à l'estomac. Bref. Et donc, il faut être du côté parasympathique pour digérer bien. OK. Donc, deux choses de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à établir quelles sont les nourritures qui sont les plus difficiles à digérer, donc qui demandent le plus du côté parasympathique. Et quel est le moment, est-ce qu'il y a, par exemple, avec les rythmes circadiens, un moment on est plutôt du côté sympathique ou plutôt du côté parasympathique? Et donc ça va changer les choses. Et donc si tu établis une boîte comme ça, les choses qui sont les plus dures, par exemple, à digérer, ça va être la viande rouge, par exemple. Les choses comme ça reste. Donc ça va demander un côté du côté parasympathique très grand. OK. Donc, si on regarde les rythmes circadiens, dans la journée, on est plutôt du côté sympathique, qui est normal parce que c'est là où on bouge, on va se taper avec l'ours, les choses comme ça. Et parasympathique, c'est plutôt le soir. Donc, ça veut dire que la digestion est plus efficace le soir par rapport à la journée. Donc, ça veut dire que si je prends la viande rouge, je devrais la prendre le soir et pas dans la journée.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Et donc peut-être que tu vois, moi par exemple le matin j'aime bien donc faire un peu bouger un petit peu, puis j'aime bien m'exposer au froid aussi. C'est un outil qui me plaît beaucoup personnellement. Et puis j'ai une charge cognitive, comme je le disais, qui est plus importante le matin parce que je suis à fond dans mes travaux, tu vois, un petit peu en flow, etc. Donc tout ça c'est que des activateurs sympathiques, tu vois. Je suis beaucoup sur l'adrénaline, sur le cortisol et tout. Et donc et de façon empirique, en fait, j'ai remarqué que ne pas petit déjeuner le matin, donc faire du jeûne intermittent, ou alors prendre un café avec un peu d'huile de MCT ou de beurre clarifié, ça me convenait hyper bien. Et et le midi, tu vois, j'ai l'habitude de manger pas mal de légumes avec des peut-être éventuellement des œufs ou des petits poissons gras, mais pas de viande, tu vois. Et par contre, la viande, je vais la réserver pour le soir. Et tu vois, et ça, c'est un truc que j'ai découvert de façon assez empirique. Et en fait, en t'écoutant, ça paraîtrait assez logique.
C'est plutôt, donc ça veut dire que dans la journée, on serait plutôt du côté fuel, essence. Non, pas essence.
Ouais. Si, carburant, essence. Ouais.
Donc dans la journée, on serait du côté carburant. Le soir, on serait plutôt du côté guérison, tu sais, produire du muscle, les choses comme ça. Ça paraît évident de ce côté-là. Donc carburant, c'est quoi? C'est carbohydrates et graisse. Les protéines ne sont pas un carburant. On est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je prendrais des protéines qui n'est pas un carburant dans la journée, où j'ai besoin plutôt du côté carburant? Donc, le soir, où là, justement, je vais reconstruire tout ce que je détruis dans la journée, c'est là où je voudrais prendre les protéines. Donc, pour moi, ça paraît, par exemple, là, ce dont tu parles paraissait évident. Donc, par exemple, même si je le fais pas moi, ma femme est en jeûne intermittent de au moins 16 heures, par exemple. Donc, elle mange rien jusqu'à 2-3 heures. Elle va manger que des fruits, un peu de graisse dans la journée, et le soir, c'est là où on se tape toute la viande. Et elle vient juste de terminer sa compétition de powerlifting, et elle a soulevé 190 kilos deadlift avec un poids de corps à 69. Et avec un taux de graisse corporelle qui doit être entre 10 et 12%. Tu vois ce que je veux dire?
Et le fait de manger des glucides, un index glycémique peut-être un peu rapide, etc., pendant la journée, ça te fait pas trop de fluctuations de la glycémie, d'hyper-hypoglycémie?
Oui, justement. Donc, il faut, par exemple, si on va avoir des glucides comme ça, il vaut mieux les avoir à l'entraînement, juste avant, mais de manière à pouvoir les utiliser. Les glucides, ça passe au niveau du glycogène tout de suite, et en vérité, les glucides ne passent pas dans le sang. Ils passent en glycogène, et de glycogène, il est retransformé en glucose. Et de ce côté-là, ça passe dans le sang, de manière à pouvoir, tu sais, avoir une production de lactate et des choses comme ça. Donc, ça veut dire que ces glucides-là doivent être utilisés. Donc, je n'ai rien contre les carbohydrates, j'en mange moi-même, mais l'idée, c'est vraiment de les avoir et de pouvoir les utiliser. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de glucides pour faire des emails. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le matin quand tu vas répondre tes emails, t'as pas besoin de t'énerver, t'as pas besoin, tu sais, de porte. Bon, mieux pas, en parlant de ça, quand on fait ses emails. Donc, c'est-à-dire que les glucides, à ce moment-là, je vois pas vraiment l'intérêt. Par contre, autour de l'entraînement, c'est à ce moment-là qu'on l'utilise. Et donc, le taux glycémique à ce moment-là, n'est pas aussi important puisqu'on va utiliser cette énergie-là à ce moment-là correctement. Donc, pour moi, tout ce qui est nourriture, c'est plutôt timing qu'autre chose, quoi. Je crois qu'il y a un timing qu'il faut avoir par rapport à la nourriture. Et le jeûne intermittent, l'idée, c'était ça. C'est de donner un temps pour le corps pour pouvoir justement ne pas en permanence fatiguer les organes de manière à, tu sais, pour la digestion et les choses comme ça. Donc, le jeûne intermittent te donne un certain nombre d'heures pendant lesquelles tes organes peuvent se reconstituer naturellement. Donc, je pense que par rapport à la nourriture, ce qui est vraiment important, après la qualité de la bouffe, évidemment, c'est le timing.
Je suis d'accord avec toi, tu vois. Et donc, justement, tu vois, mon repas du midi, je te disais, il y a beaucoup de végétaux, d'oléagineux, un peu d'œufs, etc. Mais il y a très peu de glucides en réalité, et ça me permet d'avoir une énergie stable toute la journée. Et les glucides, je vais plutôt les réserver après mon entraînement, donc en fin de journée, tu vois.
Par exemple, j'aime bien le miel. C'est le seul sucre que j'ai, c'est le miel. Je le prends quand je m'entraîne. Donc, du coup, ça me donne une montée, et cette montée-là est parfaite pour l'entraînement.
Et du coup, tu te fais potentiellement 150 grammes, 200 grammes de protéines le soir?
Oh ouais, facilement.
Ouais. Enfin, je parle pas de protéines, donc 150 grammes ou 200 grammes de steak. Je parle de protéines, de macronutriments, quoi.
Ouais, ouais, parce que je prends 400 grammes de bœuf. Donc ça doit faire au moins 100, entre 100 et 150 grammes de protéines. Mais en parlant de ça, toutes les études qui ont été faites par rapport à ça ont été faites dans la journée avec un taux de digestion moindre. Donc par exemple, je n'ai pas, je prends 200 grammes de viande. En général, de 200, tu vas prendre à peu près protéines, c'est 25-30%, quoi. Ok. Maintenant, imagine si je prends 200 grammes de viande, mais je suis capable de digérer 50% au lieu de 25. C'est-à-dire,
Ouais.
mon influx de protéines a monté. Même
Bien sûr.
si je ne mange pas plus de viande, parce que ma digestion est plus efficace, j'ai plus de protéines. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est que je ne vais pas surcharger les organes. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas surcharger le système digestif. Je vais prendre la même quantité de protéines, simplement je vais pouvoir tirer plus de protéines de cette quantité-là. C'est
C'est ça,
ça l'idée.
comment est-ce que tu l'as? Parce que ça, je le comprends très très bien d'un point de vue théorique. Par contre, d'un point de vue pratique, est-ce que tu as réussi à l'objectiver d'une façon ou d'une autre, de t'apercevoir que réellement, tu avais une meilleure absorption?
Ouais, ça se voit au niveau, tu sais, donc on est au niveau quantité de muscle, donc au niveau de poids musculaire, tu regardes par rapport à ça, mais il y a aussi qualité du sommeil. Parce que par exemple, si on parle de produire du muscle, la première chose dont on doit parler, c'est le sommeil. Tu vois ce que je veux dire? Même avant la nourriture, c'est le sommeil d'abord. On va commencer avec ça. Donc, ce que j'aime aussi beaucoup avec ce qu'on appelle le protocole, donc qui est manger la viande rouge le soir, c'est que ça va te mettre dans un état, ça va te mettre comme ça après, et tu vas mieux dormir. Donc, on va avoir un sommeil plus réparateur. Donc, naturellement, ça va aussi faciliter par rapport à l'entraînement. Donc, je regardais de ce côté-là. Je pourrais faire un test, voir si je digère les protéines mieux. Il y a un de mes clients qui l'a fait, c'est-à-dire qu'il a commencé le protocole, il avait une digestion qui était à 20%, c'était un test fécal, je crois, je ne me rappelle plus exactement, il m'a dit, ou c'était par rapport à l'urine, c'est l'un ou l'autre. Il m'a dit, j'ai oublié, mais bref, il a fait un test où, au début du protocole, le pourcentage qu'ils ont donné, qui est, peu importe, du moment que le test a été fait de la même manière, tu vois ce que je veux dire? Donc le pourcentage que je vais te donner, ça n'a aucune importance, mais il m'a dit qu'il avait commencé à 20% et qu'au bout de 3 mois de protocole, il était à 80% de digestion des protéines. Peu importe, 80%, je ne sais pas comment ils calculent ça, mais l'idée, c'est que sa digestion était meilleure. Et c'est ça vraiment, pour moi, qui compte le plus. C'est qu'avant d'augmenter les quantités de nourriture ingérées, il faut pouvoir avoir une meilleure digestion.
Et pour autant, tu vois, il y a une espèce de dogme qui suppose le fait de manger des protéines le soir, ça serait pas bon. Parce que justement, ça pénaliserait le sommeil. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Que
Ça
c'est
n'est pas
n'importe
mon
quoi.
expérience personnelle de mes coachs ou de mes clients. Et j'ai offert donc une idée qui pour moi est logique, et au lieu de dire simplement non, c'est pas vrai, je voudrais qu'on m'explique pourquoi ce dont on vient de parler n'est pas vrai. D'un point de vue logique, tout ce dont je parle avec la digestion, le système sympathique, parasympathique, ça a été établi il y a 150 ans. Donc on peut pas vraiment, tu vois ce que je veux dire? Ça paraît assez évident et ça a été prouvé, je pense. Donc, à chaque fois, les gens viennent avec des études. Et pardon, mais ces études-là, je peux te montrer. Pardon, mais c'est pas vrai, quoi. Il y a des trous dans ces études-là, même au niveau de la logique, qui sont monstrueuses. Les études faites par rapport à la nutrition, je t'en montre certains, ils te donnent des conclusions qui n'ont rien à voir avec l'étude. Pardon, mais la plupart, c'est de la connerie, quoi. Simplement. Si tu trouves pas ça étrange que dans les 10 dernières années, toutes les études faites t'ont donné le même résultat qu'il faut manger plus. T'as déjà vu une étude qui dit qu'il faut manger moins? Est-ce que t'as vu une étude sur le bénéfice du café? Pas
Ouais, j'en
mal.
ai vu plein, ouais.
Ouais, t'as vu une étude qui dit que le café est mauvais pour toi?
Oui, aussi, ouais.
Ouais, moins. C'est marrant comment ça marche. Tu vois ce que je veux dire? On parle
Ouais.
pas beaucoup de ce côté-là. À chaque fois, les experts, c'est toujours la même chose. Il faut manger plus de protéines, plus de carbohydrates, plus, 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 plus. C'est quand même bizarre, quoi. C'est jamais mieux, c'est toujours plus. Tu sais pourquoi? Parce que ça se vend plus facilement. Honnêtement, les études par rapport, pardon, mais le niveau nutritionnel n'est absolument pas scientifique. La façon dont ils font les études, là, je peux te montrer, il y a des trous, mais partout dans ce côté-là. Je fais énormément au niveau d'études, pardon, mais du côté médical, du vrai côté médical, et tout au niveau nutrition, c'est. Non.
Je pense qu'il y a deux trucs à voir par rapport à ça. La première, déjà, sur, tu vois, tu disais par exemple que tu mangeais du bœuf le soir, et donc il y a eu beaucoup d'études justement qui ont montré que la viande rouge était associée à plus de cancers, des maladies cardiovasculaires. Mais souvent, ces études-là, elles sont faites avec de la viande transformée, elles sont faites avec de la viande
Exactement.
industrielle, etc. Et donc, il y a des tas de biais, il y a des tas de biais là-dedans. Et
Qui a
par rapport à
été
la
payé par des gens qui te disent qu'il ne faut pas manger de viande rouge de toute manière.
Oui, voilà. Et par rapport à la digestion, tu vois, et au fait de manger ou non des protéines le soir, peut-être qu'il faut remettre aussi en perspective le contexte. Est-ce que tu manges tes protéines et tes 150 ou 200 grammes de protéines 30 minutes avant d'aller dormir, alors qu'il est tard, que
Pareil.
la mélatonine, on sait que la mélatonine inhibe un peu le système digestif, etc. Donc, t'es pas du tout en bonne capacité de métaboliser justement ce que tu vas
Exactement.
apporter à ton estomac. Ou est-ce que tu manges à 18h30, à un moment justement en post-entraînement, à un moment où tu es dans une bonne fenêtre, etc. Tu vois? Et donc, quoi?
Est-ce que tu as mangé en regardant un film d'horreur? Est-ce que tu as mangé
Oui.
ta viande rouge et t'es allé travailler après? Est-ce que tu as mangé ta viande rouge et tu t'es engueulé avec ta femme? Est-ce que tu vois ce que je veux
Bien
dire? Il y
sûr.
a, il y a 40 trucs. Tu sais, quand ta grand-mère, tu disais, il faut mâcher bien sa nourriture. Ok, donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a, par exemple, la digestion, donc on est du côté parasympathique. C'est pas, on n'arrive pas du côté parasympathique le soir simplement parce qu'on arrive à la maison. Ça dépend de l'ambiance de la maison. Ça dépend, tu sais, si on est stressé ou pas, si on va travailler ou pas, si on va avoir, par exemple, un dîner avec la famille, avec ta femme, tes gosses, tout va bien et tout ça. C'est, tu sais, et puis elle cuisine, ta femme cuisine pendant 1 heure, tu commences à avoir les odeurs qui
Ouais.
arrivent. Toutes ces choses-là te mettent du côté parasympathique. T'arrives du boulot, t'es fatigué, t'es stressé. Tu mets le steak dans, tu sais, dans le truc, tu reprends et tu le manges en regardant, ah non, je sais pas, Instagram ou YouTube qui parle de Donald Trump contre. Tu vois ce que je veux dire? Là, toutes ces choses-là commencent à s'accumuler. Donc, rien n'est aussi simple. Aucune de ces études ne prennent ces choses-là en compte.
Il
Donc,
suffit de
je
voir
n'ai pas
d'ailleurs.
une étude qui prenne la digestion de la nourriture en compte dans l'étude. Donc, dès le départ, c'est impossible. L'étude ne peut pas être correcte. Pardon, mais c'est vrai.
Et comme tu l'as bien expliqué avec le contexte, on voit que la digestion, elle commence avant même que tu commences à manger. T'as la phase céphalée qui est liée justement au fait de cuisiner, aux odeurs, aux textures, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus
La
vaste et
bile
complet que ce qu'on peut imaginer.
qui va te permettre de digérer. Il y a tout un système par rapport à ça. Il faut commencer à gérer cette acidité dans l'estomac et tout ça qui doit commencer à grandir avant de manger. C'est trop tard après, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a 50 trucs comme ça qui font partie du système digestif. C'est le système entérique. Le système entérique, c'est un système nerveux en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Qui produit la sérotonine, beaucoup de dopamine. Donc bref, il y a tout un système. On n'est même pas entré dans le gut flora. Tu vois ce que je veux dire? Dans le gut biome, comment ça se dit en français?
Dans la relation, dans le lien
La flore
microbiote
intestinale.
cerveau?
Même la flore intestinale.
Ouais.
Même ça va changer les choses.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme tu l'as dit en parlant de ça, la qualité de la viande. Oui, on est bien d'accord que si la vache est malade et que tu manges cette viande-là, c'est probablement pas bon pour toi. On est bien d'accord, ok, on est tout à fait d'accord. On ne devrait pas manger de viande qui vienne de vaches malades. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que ça fait partie de l'étude? Non. Ok,
Ah non,
donc, c'est ce que je veux dire.
au
Bien
contraire, la
sûr.
plupart de ces études-là, c'est de la viande industrielle de bas de gamme.
Exactement. Mais ces études-là, généralement, commencent avec une idée en tête. On va prouver que la viande n'est pas correcte. Et
Et
te montrer
donc.
jamais les études qui prouvent que. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pardon, mais le côté nutrition, c'est le pire côté du fitness et du côté médical. C'est-à-dire, il y a un bias dès le départ de manière à arriver d'un certain côté. Donc, c'est une étude qui ne peut pas être scientifique au départ. Tu sais que dans toutes les études scientifiques, tu dois déclarer tes bias, tu vois, dire si ça a été
Ouais.
payé par et tout ça. Ils le font. C'est fini tout ça.
Bah, c'est comme ces documentaires à succès là, Game Changer, etc., qui sont remplis d'idepsis et de raccourcis dans tous les sens.
Il n'y a même pas besoin de mentir. Tu prends simplement les 50% qui vont de ton côté. Puis tu oublies les autres 50% qui partent de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement évident. Oui, mais tu as oublié d'expliquer que. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu changes le contexte. C'est-à-dire que tu introduis un certain contexte qui va naturellement donner certains résultats. Et donc tu donnes ces résultats-là, mais tu oublies de mentionner le contexte. Et à partir de là, tu vas arriver à certaines conclusions. Oui, je peux faire ça aussi en parlant de ça. C'est pas très dur, hein.
Ok, du coup, viande et poisson de qualité le soir, pendant la journée, éventuellement des
Les deux, par
féculents
exemple.
si tu les mérites, mais les glucides ça se mérite. Si t'as pas
Ok, les
d'entraînement,
œufs,
a
tu les
priori, t'en
mérites.
manges pas. Et le reste,
Alors,
sinon,
on va voir
c'est
les œufs.
végétaux et graisses.
Exactement. Et donc, les œufs font partie des graisses, évidemment. Enfin, il y a des gens qui. Ça dépend un peu en fonction de la digestion, ça. Mais la plupart du temps, les œufs, par exemple, dans la journée, c'est pas très dur à digérer, quoi.
Et les
Par exemple,
oléagineux?
les glucides sont très très faciles à digérer. Tu prends du miel, ça commence déjà, la digestion se fait au niveau de la bouche, quoi. Parce qu'on a une flore intestinale, les bactéries, en vérité, sont dans la bouche aussi. Donc il y a une relation entre les deux. Donc tu prends du miel, c'est déjà 20% est digéré simplement au niveau de la salive, quoi.
Et les oléagineux? Les
C'est quoi?
oléagineux, tout ce qui est noix, amandes, noix de cajou, noix
C'est
de
un peu
brésil, noix de
différent parce
macadamia.
que des fibres et tout ça. Donc, c'est une question de digestion. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus facile que d'autres. Donc, c'est un peu par rapport à ça qu'il faut gérer. En vérité, on parle du contexte en permanence. C'est ça qui est très important. C'est le contexte digestion par rapport, donc ton état à toi par rapport à l'état du monde dans lequel tu es. Par exemple, une seconde. Hey! Pardon, c'est ma femme qui est là-bas. Je sais pas si on peut l'entendre derrière, mais. Ouais. Donc il y a hop, et en plus ma caméra. Ok, donc je repars. Non, ma caméra fait des trucs bizarres. Pardon. Si l'état dans lequel tu es, donc l'état du monde autour de toi, te demande un niveau sympathique ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu peux me donner une seconde? Pardon. Donc, si l'état du monde dans lequel tu es te demande un niveau sympathique ou pas, va changer un peu les choses. Par exemple, si je prends des noix, énormément de noix, genre pas, tu sais, deux ou trois, mais vraiment, tu sais, on va dire 100 grammes, 200 grammes, un truc comme ça, personnellement, ça va me mettre dans un état un peu, ça va me calmer un peu, quoi. Donc, je vais jamais faire ça 15 minutes avant mon entraînement. Parce que sinon, le deadlift, il va être dur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera un peu plus. À cause des fibres, le plus tu dois commencer à dealer avec ces choses-là, le plus de sang tu dois amener et le plus il faut monter par exemple, les niveaux de bile, l'acidité de l'estomac et choses comme ça va, par exemple, avoir une influence très, très grande sur ton entraînement. Donc, à quel moment? Pour moi, tout est qu'une question de timing. Mais donc, timing, ça veut dire quoi? C'est pas simplement dans la journée. C'est aussi basé sur ce que tu fais. Par exemple, des noix, quand tu fais tes emails le matin, c'est parfait. À l'entraînement, non, c'est pas une bonne idée, quoi. Parce que le sang ne va pas vers l'estomac à ce moment-là, il va vers les muscles, évidemment, quoi. Et donc, le sang qui va vers les muscles, ça, c'est un côté sympathique. Parce que je veux dire, donc, le côté parasympathique qui demande que le sang aille vers l'estomac doit être géré par rapport à tes actions aussi dans les 30 prochaines minutes. Donc, pour moi, tout est une question de timing, en vérité.
Tu vois, je reprends encore une fois mon exemple, mais le matin, donc je te disais, je suis en jeûne intermittent et j'aime bien travailler debout. J'ai un bureau assis debout, et tu vois, après le repas du midi, à l'inverse, je vais plutôt travailler assis. Je vais plutôt justement faire mes mails, lire des newsletters, quelques pages de lecture d'un livre. Je suis naturellement sur des activités qui sont beaucoup plus sur le parasympathique, beaucoup moins engageantes, tu vois.
Oui,
Et puis après, je vais
exactement.
avoir une remontée d'énergie en fin d'après-midi qui va être l'heure de mon entraînement, quoi. Et en plus, j'aurai digéré, entre guillemets, mon repas du midi.
Et au niveau circadien, ça se voit, tu sais, il y a les montées de cortisol, c'est le matin, vers genre 2 heures. Donc, il y a tout on a été créé d'une certaine manière. Ce qui me dérange le plus avec la nutrition actuelle, c'est cette idée qu'on peut forcer le corps à faire certaines choses. Par exemple, ils disent tous manger plus de protéines pour produire du muscle. Non. Pardon, mais d'abord sommeil, après entraînement. Si on n'a pas ces deux choses-là, produire du muscle. Je me rappelais toujours de ça. J'avais un client, il arrive et il me dit j'ai eu une opération au niveau du genou, ACL, donc j'ai perdu énormément de muscle au niveau de la jambe. Combien de grammes de protéines est-ce que je dois manger pour pouvoir reconstruire ce muscle-là? C'est une question absurde. Tu plaisantes ou quoi? Je comprends les. Tu peux me dire ça encore? C'est d'ouest parce que c'est en français. Je crois que j'ai pas bien compris ta question. Tu vois ce que je veux dire? C'est une manière de penser ridicule. Comment ça reconstruire la jambe? T'as eu une opération. Tu vois ce que je veux dire? Va falloir s'entraîner. Va falloir reprendre par rapport au mouvement. Tu vois ce que je veux dire là? Il y a tellement de choses avant qu'on arrive au gramme de protéines. Malheureusement, parce que ça, c'est YouTube et tout ça, il y a tellement d'informations en ligne maintenant qui te bombardent avec des choses, ils te bombardent avec une idée vraiment qui est la plus facile pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Mange des protéines, tout va bien, ta jambe va revenir au normal. Tu vois ce qui est ridicule. Ils te le disent pas comme ça, mais en même temps, c'est plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème en réalité de YouTube et de là où on est à l'heure actuelle, c'est qu'il y a tellement d'informations que c'est vraiment, vraiment dur pour pouvoir savoir quoi faire maintenant. Ça, je crois pas que plus d'informations est ce dont on est tous besoin, quoi.
Ouais, et puis en plus de ça, tu vois, vis-à-vis de cette quantité d'informations, enfin, tu vois, par exemple, si on prend juste le prisme de la nutrition, t'as des gens qui vont te parler du régime végétarien et te dire, ouais, le plant-based, etc., c'est le meilleur possible, c'est le meilleur régime du monde. Et quand
Bien
tu les
sûr.
écoutes, ils ont tous les bons arguments. Et de l'autre côté, après, tu vas entendre un mec qui fait l'apologie du régime carnivore. Et
Ouais.
pareil, il va réussir à te convaincre. Et tu dis,
Il
comment est-ce
éclate.
que, comment, comment, comment c'est possible que ces deux mecs qui disent exactement l'inverse arrivent tous les deux à me convaincre? Et après, moi, je pense qu'il y a quand même un élément de réponse dans la partie génomique, génétique. Je m'intéresse pas mal à ça. Et je pense qu'on a des prédispositions à métaboliser plus ou moins bien les graisses, les lipides, les protéines, etc. Et qu'en fonction de ce que mangeaient nos ancêtres, on est plus ou moins prédisposé à telle ou telle alimentation. Ce qui peut
Mais même
expliquer que les
avant
uns et
ça.
les autres trouvent des bénéfices parfois en changeant de régime parce qu'il est simplement plus adapté à leur terrain personnel.
Non, mais le terrain personnel, ça commence déjà avec la flore intestinale. Déjà, c'est la première étape, c'est ça. Je ne sais pas si tu as étudié ces choses-là, mais moi, je suis là-dedans depuis très longtemps. Et on a 100 trillions de bactéries dans l'estomac, tu vois ce que je veux dire? Mais ces bactéries vivent en colonie. Et donc, je me rappelle plus exactement de combien, mais bref, il y a 3-4 colonies qui sont les premières, et après ça, il y en a d'autres qui sont plus petites. Mais c'est connu. Par exemple, il y a les bactéroïdes sont en charge des graisses animales et tout ce qui est protéines. Tout ce qui est plutôt Prevotella, c'est plutôt du côté glucides. Donc, il y a certaines colonies de bactéries qui ont un travail spécifique par rapport à la digestion. Et donc, en fonction de la composition de la flore intestinale, ta digestion va être aussi plus ou moins correcte de ce côté-là. La flore intestinale peut changer, mais simplement elle change au bout de 3 semaines, 1 mois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les pourcentages au niveau des bactéries doivent changer. Donc, il y a tout un système en place par rapport à la flore intestinale qui est extrêmement important et qu'on commence à étudier maintenant, mais on est vraiment au début. Malheureusement, toutes ces connaissances-là par rapport à ça arrivent très, très, très lentement par rapport à la nutrition. Mais on ne peut pas parler de nutrition sans parler de flore intestinale. C'est pas possible. Sans parler de, tu sais, tout ce qui est bile au niveau acidité de l'estomac et au niveau du système nerveux. La conversation, elle commence là. Et oui, on est bien d'accord. Le niveau génétique d'apport, ça sera probablement épigénétique plutôt que génétique. Mais bref, tout ça est lié, mais par rapport au système nerveux, et on a un système nerveux par rapport à l'estomac, qui est le système entérique, donc qui est très lié par rapport à la flore intestinale. Donc maintenant, ce sont ces liens-là qu'il faut étudier, pas protéines, machin et trucs, quoi. Parce que, en fonction, ne serait-ce que de la flore intestinale, ça va changer la digestion par rapport aux protéines, ou aux glucides, ou tous ces trucs-là.
Et comment est-ce que tu comment dire tu analyses cette flore bactérienne? Comment est-ce que tu l'influes positivement ou négativement? Qu'est-ce que tu fais concrètement vis-à-vis de ça? Parce que tu sais, t'as des boîtes comme Viome ou ce genre de choses qui font une espèce de cartographie des colonies justement qui y vivent, mais on manque tellement de recul aujourd'hui sur ce qu'est un bon équilibre microbial, etc., que ça n'a pas vraiment de sens.
On
Donc
sait pas.
qu'est-ce que tu fais d'utile aujourd'hui avec cette compréhension? Moi, je suis tout à fait d'accord vis-à-vis du rôle fondamental que joue ton microbiote sur la gestion de tes émotions, sur ta capacité à digérer, etc. Mais comment est-ce que tu utilises cette connaissance-là pour infléchir tes habitudes de vie?
Oh, il y a bon, en parlant de ça, les connaissances sont très réduites, toujours. On ne sait, il y a tellement de trucs. En vérité, on sait très peu. Donc, si c'est quelque chose qui, en vérité, qu'on commence à étudier, ça fait 10-15 ans max, c'est-à-dire qu'on est vraiment au départ, et on sait très peu en vérité. Donc, pour l'instant, ce que je fais moi, c'est vraiment au niveau. Donc, on fait beaucoup de tests, tu sais, par rapport les tests fécales de manière à voir les bactéries et tout ça. Mais à l'arrivée, pour l'instant, jusqu'à qu'on ait beaucoup, beaucoup plus de connaissances par rapport à ça, ce qu'on fait en vérité, c'est qu'on deal avec la personne directement et on teste. Pendant 3 semaines, on va faire ceci, 3 semaines, on va faire ça. Et on voit les réactions en fonction de l'environnement par rapport à la personne elle-même sur une course de 3 semaines. Et on voit ce qui monte, ce qui descend. Et on commence à établir ces choses-là par rapport à cette personne-là. On n'a pas les connaissances nécessaires pour avoir une idée de groupe. Par rapport, l'être humain doit faire X. Non, c'est pas vrai. C'est ça qui me dérange avec les études, c'est que les carnivores ou les végétariens te disent tout le monde doit faire X. Honnêtement, on n'a pas les connaissances nécessaires pour arriver à une généralisation. Pour l'instant, le travail que je fais, moi, c'est énormément one-on-one. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec, OK, on va prendre 3 semaines, on va essayer ça. Après, on va prendre 3 semaines, on va essayer ça. Et on voit bien qu'au bout de 3 semaines, il y a des changements au niveau de la flore intestinale qui se fait parce que ça, on l'a testé. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette colonie par rapport à celle-là, j'imagine que je vais faire une étude par rapport à ça un jour, dans 10 ans, tu vois ce que je veux dire. Là, on n'a pas les connaissances nécessaires pour faire autre chose que de dealer avec la personne elle-même. C'est tout ça, il faut tester soi-même. Il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Un jour ou l'autre, on y arrivera. Pour l'instant, on n'en est pas là, quoi.
Justement, dans cette logique d'expérimentation à l'échelle personnelle, individuelle, qu'est-ce qu'on va observer pour objectiver le fait qu'on progresse ou non dans le bon sens? Bien évidemment, on pourrait parler du niveau d'énergie, etc. Mais par exemple, est-ce que le fait d'avoir un peu de flatulence, ça pourrait pas être quelque chose de normal? Tu vois, c'est vu comme quelque chose de
Ah
négatif dans la société, mais en fait,
non,
ça pourrait être
non.
normal puisque, non?
Non, non, changement. Non, tu as tout à fait raison. Changement de
Et
bactéries, on peut
tu vois, et c'est
certainement
pareil,
essayer de
je vais jusqu'au. Je vais jusqu'au bout de mon idée, comme ça après tu pourras me dire ce que t'en penses. Mais tu vois, même au niveau de la qualité des selles, bon, en réalité, si tu manges, je sais pas, beaucoup de riz, etc., peut-être que tu vas avoir des cacas durs, tu vas appeler ça des perfects, tu vois. Mais en
Ouais.
soi, c'est pas forcément un gage de bonne qualité. À l'inverse, si tu manges plus de légumes et plus de graisse, peut-être que tu auras les selles un petit peu plus grasses, ça sera moins un caca parfait, mais peut-être qu'en réalité, c'est mieux pour toi. Tu vois, c'est pas facile non plus d'observer, de savoir. Donc si, il y a le facteur de l'énergie qui, ça, je trouve, est quand même un bon critère objectif de notation. Mais sinon, à part ça, est-ce que tu as d'autres choses qui te permettent d'observer le fait que ton alimentation te fasse du bien ou du mal?
Pas de signes extérieurs comme l'urine ou quoi que ce soit. Non, parce que les choses changent. Les selles et tout ça, 3 semaines après, sont différentes. Il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Pour moi, c'est le sommeil, taux de graisse corporelle, muscles, surtout graisse. Tu
Viscéral.
sais, entre les organes.
Ouais, viscéral.
Viscéral. Graisse viscérale, très important parce que ça peut être très inflammatoire. Donc, graisse viscérale est très important pour moi. Le muscle. Gagné ou perdu, qualité de sommeil, qualité d'énergie, mais surtout aussi mentalement. Tu vois, c'est-à-dire si les émotions commencent à monter et descendre énormément, si on commence, tu sais, à être à fleur de peau en permanence, si on mange pas assez par rapport à ça, c'est tout se fait par rapport à l'être humain lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Le côté, on peut gérer ça en fonction de, nah, dans 2 semaines, ça a changé. C'est pour ça que les études qu'on fait sont tellement courtes, parce qu'en vérité, 2 mois après, les choses ont changé complètement, tu vois ce que je veux dire? Donc, le problème, c'est que la complexité du corps humain, pour l'instant, fait qu'on n'a pas les réponses à ces questions-là. Pas encore. J'imagine un jour ou l'autre, mais honnêtement, à l'heure actuelle, non. Donc, dès qu'il s'agit de nutrition, honnêtement, tout doit être fait par rapport à cette personne-là. Et non, il faut pas regarder les selles ou non. C'est sommeil, tu vois ce que je veux dire, qualité d'entraînement, qualité d'énergie dans la journée, c'est les trucs comme ça, quoi. Et on est bien d'accord, dans 3 semaines, ça sera différent. Ouais, dans 3 semaines, on va commencer à voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le sommeil a changé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? En parlant de ça, la vie de tous les jours, on va avoir une influence énorme par rapport à tout ça aussi. Est-ce que, tu vois ce que je veux dire, tu sors du boulot, avant tu sortais à 5 heures, maintenant tu sors à 8 heures. Ça va changer énormément de choses. Ça, parce que maintenant, le timing du dîner va changer. Donc, tout va changer. Donc, c'est ça. Il faut en permanence, tu vois ce que je veux dire, s'adapter à la vie de tous les jours, au stress, tu sais, hiver par rapport à été. Donc, il y a une adaptation constante qui devrait être faite. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, qui est très dur à vendre. C'est que, tu
Et
sais, la réponse, en vérité, c'est ça dépend. C'est ça,
tu
la vraie
parlais.
réponse.
Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et tu parlais de l'heure du dîner. Tu vas me dire, je fais que citer des études, mais j'en ai vu une qui m'a quand même pas mal marqué, qui a montré que le fait de manger son dîner avant 8 heures, avant 20 heures le soir, plutôt qu'après 21 heures. avait un impact drastique sur les causes de mortalité, toutes causes confondues. Ce qui paraît assez logique avec le fait, justement, on en a parlé tout à l'heure, que la mélatonine a tendance à inhiber un peu le système digestif, le pancréas met un peu au repos, etc.
C'est une qualité de vie qui va venir avec ça. Parce que je veux dire, c'est que si tu manges à 10 heures, ça veut dire que soit tu as travaillé énormément, soit tu n'as pas une vie stable. La plupart des gens qui vont avoir un dîner à 7 heures tous les jours, c'est d'avoir vie de famille, généralement. C'est-à-dire, donc, il y a une stabilité, une structure qui s'est faite. Peut-être pas pour tout le monde, mais dans la plupart des cas. Donc, ça veut dire qu'ils vont manger en famille, c'est-à-dire que tu vas manger plus doucement, en parlant, en mâchant correctement, tu vas mieux digérer, tu vois ce que je veux dire? Donc, généralement, ce genre de choses, c'est pas simplement lié à, par exemple, la mélatonine ou des choses comme ça. Ça peut être lié par rapport
au contexte,
à un
ouais, ouais.
Ouais. C'est ouais. Toujours, il y a énormément de choses par rapport à la nutrition qui sont contextuelles. Malheureusement, ça n'est pas pris en compte parce que ça devient très complexe et la réponse, du coup, est toujours ça dépend.
Ouais, c'est les fameux facteurs confondants. Dernière question sur la nutrition. Après, je vais t'emmener sur d'autres choses, mais la crème hyper fat là que tu prends le matin, donc riche en acides gras saturés, c'est par plaisir ou c'est par choix? Enfin, qu'est-ce qui a motivé cette volonté?
C'est par rapport à l'énergie mentale que je prends par rapport à ça. Les graisses saturées sont très importantes pour tout ce qui est énergie de ce côté-là. Au moins pour moi. Et j'ai vu ça avec mes clients aussi. Ça te donne une énergie mentale parfaite pour la concentration.
Ouais, c'est le
la graisse saturée marche beaucoup mieux que les glucides.
C'est le fameux bulletproof coffee là où tu mets une cuillère à soupe de beurre clarifié, une cuillère à soupe d'huile de MCT. Moi j'ai testé et franchement c'est hallucinant. C'est vrai que c'est hallucinant en termes d'énergie mentale.
C'est bien supérieur. En plus, mais tout le monde le sait, c'est tapez-vous du sucre et essayez de vous concentrer sur un email. Tu vois ce que je veux dire? On le sait bien tous, tu vois ce que je veux dire? Par contre, le sucre avant l'entraînement, ça va marcher. Je suis à zéro sucre, mais bref. J'ai du miel de temps en temps et en vérité très peu. Oui, le sucre marcherait mieux pour l'entraînement que pour tout ce qui est travail. Essayez de lire de la Nietzsche en mangeant un sneaker, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche moyen, quoi.
Non, c'est clair.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça le problème de la nutrition aussi, c'est que par rapport à quoi? Tu vois, c'est-à-dire, je mange, ok, mais je mange pour faire quoi? Est-ce que c'est une essence, un carburant? Est-ce que c'est un carburant? Ok, mais un carburant pour quoi? C'est pas un carburant, parce que la vie ne marche pas comme ça. C'est un carburant pour l'effort physique, pour l'effort mental, pour être... tu vois ce que je veux dire, il faut tout définir quand on commence avec la nutrition. C'est toujours... La nutrition est toujours contextuelle en fonction de quelle heure dans la journée, par rapport à quoi, tu vois ce que je veux dire. Et en réalité, la grande complexité, c'est pour ça que tu as les végétariens d'un côté, les carnivores de l'autre, et ils sont tous sûrs de ce qu'ils disent parce que peut-être que pour eux, dans leur contexte, de leur vie à eux, ça marche correctement à ce moment-là. Mais peut-être qu'un mois après, ça marche plus. Bref, en parlant de ça, les végétariens, je crois pas que ça marche très bien. Mais bref, ça, c'est un autre problème. J'ai pas vu beaucoup de gens très forts qui sont végétariens. Il y en a quelques-uns, mais bon, la grande majorité quand même mange à peu près la même chose. Hein. Je dois dire.
C'est intéressant parce que là, on arrive quand même à dessiner une forme de modèle, dans le sens où les carbohydrates sont un carburant pour l'exercice, les graisses sont un carburant pour l'énergie mentale, les protéines sont des briques de base pour reconstruire tout ce qui a été détruit pendant la journée. Donc, on a quand même quelque chose qui fait sens et des éléments, des ingrédients avec lesquels jouer. Donc, la nourriture, l'alimentation répond à ces trois objectifs potentiels. Et puis, il y en a un quatrième et qui correspond à beaucoup de gens, qui est le facteur psychologique, émotionnel, c'est-à-dire qu'ils mangent non pas parce qu'ils ont une faim physiologique, mais parce qu'ils ont besoin de tuer l'ennui ou le stress. Oui. Je sais que ton sujet d'intérêt ces dernières années se porte beaucoup justement sur l'anxiété chronique qui est le stress chronique qui définit une grande part de la population et de ses liens avec le sport, l'exercice physique. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus?
Oui, donc il semblerait que faut définir d'abord l'anxiété un peu. Donc généralement quand on parle d'anxiété, on en parle d'un niveau négatif. Mais en vérité, l'anxiété, même du côté négatif, ça peut être aussi positif de ce côté-là, dans le sens que l'anxiété, c'est simplement une énergie qui est développée de manière à être utilisée pour la vie dans un contexte X. Et l'anxiété devient négative quand on pense, quand l'énergie produite ne correspond pas à l'effort suivant. Donc, c'est-à-dire que cette énergie qui n'est pas dépensée revient vers l'intérieur dans un sens, et c'est là que l'anxiété devient négative. Et donc, en vérité, le plus j'étudie ça, donc je travaille énormément avec UCLA, on est en train d'établir une nouvelle thérapie psychiatrique avec UCLA par rapport au mouvement et certaines choses spécifiques. On s'aperçoit que tout est une question de résilience, en vérité. C'est-à-dire, tu sais, on tombe le proverbe bouddhiste, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Donc, en vérité, tout est basé là-dessus. Et en vérité, si on regarde le corps humain, tout est basé là-dessus. Un système d'entraînement, c'est quoi? C'est, tu sais, ce qu'ils appellent la super compensation. Tu détruis, tu reconstruis, plus fort. Et donc, c'est un vaccin. C'est quoi? Ça te donne une certaine maladie, suffisamment faible de manière à ce que tu puisses gagner par rapport à ça, pouvoir développer tout le système en place. Donc, en vérité, par rapport au corps, tout suit une idée de super compensation. Tu détruis, tu reconstruis plus fort. Tomber 7 fois, se relever 8 fois. Donc, la manière de dealer avec l'anxiété, c'est simplement de pouvoir renforcer cette résilience, de pouvoir toujours se relever une fois de plus et se relever plus facilement. Plus vite, peut-être pas plus facilement, plus vite. En vérité, c'est ça l'effort par rapport à l'anxiété. C'est ça la manière correcte de dealer avec l'anxiété. On a deux problèmes maintenant. Et le plus grand problème, c'est que les gens ne comprennent pas l'idée de résilience. Donc, au lieu d'essayer de se relever une fois de plus facilement, plus vite, ils essayent de tomber moins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour la plupart des gens, résilience, c'est quoi? C'est pas se relever, c'est au lieu de tomber 7 fois, on va tomber 6 fois, 5 fois, 4 fois, jusqu'à arriver à créer un environnement où on ne tombe plus. Oui, malheureusement, le système n'est pas fait comme ça. Si on ne tombe plus, on ne devient pas plus fort. Parce que je veux dire, donc c'est par exemple, il y a une étude qui vient de sortir dans les dernières années sur le beurre de cacahuète aux États-Unis. Dans les années, c'est quoi, 70-80, ils ont commencé à tous péter les plombs par rapport au beurre de cacahuète et les gamins. Parce il y avait certains gosses qui étaient allergiques au beurre de cacahuète. Et donc, du coup, dans les écoles, ou même les médecins ont commencé à dire aux femmes enceintes et après que les gamins ne devraient pas toucher les cacahuètes parce qu'on voit certaines allergies. Tu sais ce qui s'est passé? Le taux d'allergie au beurre de cacahuète a monté de genre 300%. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus aucune exposition par rapport à ça. En vérité, on a affaibli le système en place. C'est ce que je veux dire, car en vérité, l'idée, c'est de, comment est-ce qu'on fait, la meilleure manière de faire, c'est d'introduire le beurre de cacahuète avec les femmes enceintes. Parce que comme ça, le gamin va développer enfin, tout un système par rapport aux cacahuètes, et donc il aura beaucoup moins de problèmes avec ça. C'est ce que je veux dire. Donc c'est ça la résilience, c'est toujours la même chose. Et par rapport à l'anxiété, c'est la même chose. On ne peut pas enlever l'anxiété, c'est pas vrai. Certaines personnes sont anxieuses, ils vont toujours être anxieuses, mais c'est pas grave. Cette anxiété, c'est simplement une énergie qui est développée de manière à pouvoir dealer avec le monde externe. Donc, maintenant, on a un autre problème, c'est que si on ne se sent pas capable de dealer avec quelque chose, c'est là où l'anxiété va devenir négative parce qu'on va produire plus d'énergie, mais l'utiliser de moins en moins puisqu'on ne va pas dealer avec le problème à l'extérieur. Donc, le fait que les gens, au lieu de dealer avec un problème et de se relever plus vite, plus facile, mais simplement enlever les problèmes. Parce que c'est le côté soft de l'Occident maintenant. C'est-à-dire que il y avait un truc toujours, c'est n'essayez comment ça se dit en français? Ne demandez pas une charge moins lourde, demandez des épaules plus fortes. C'est ce que je veux dire? La plupart des gens maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une charge moins lourde. Et il n'y a qu'un résultat par rapport à ça, c'est qu'on affaiblit le système. Le plus on affaiblit le système, le moins on est capable. Le moins on est capable, le plus l'anxiété devient négative. Donc, en vérité, d'essayer de réduire la charge à chaque fois ne crée qu'une seule chose, une anxiété plus grande, plus forte, plus négative.
C'est hyper intéressant. C'est marrant, ça me fait penser, tu sais, quand tu disais que du coup les gens essayaient de se construire une vie de plus en plus confortable, de moins en moins stressante, sans problème. J'ai vu une expérience, celle-là, il y a pas longtemps, que j'ai trouvé assez marrante, où en gros ils montraient aux gens des visages. Certains étaient avaient l'air sympathiques et gentils, puis d'autres avaient l'air méchants et malveillants. Et les gens devaient doter justement ces visages et dire s'ils étaient plutôt bienveillants ou malveillants. Okay? Et donc au début, il y avait 50% de visages malveillants, 50% de bienveillants, et les gens arrivaient globalement à bien dire s'ils étaient bienveillants ou malveillants. Et au fur et à mesure de l'expérience, ils ont commencé à virer les malveillants, à laisser plus que des bienveillants. Mais figure-toi qu'en réalité, notre capacité de jugement, elle est vraiment fondée sur le contraste et pas sur le noir ou le blanc, mais sur le gris. Et donc à la fin, il n'y avait plus que des visages bienveillants, mais les gens continuaient à voir 50% de malveillance, c'est-à-dire que les bienveillants et devenaient pour eux certains devenaient pour eux des malveillants. Et qu'est-ce que ça nous dit ça sur la façon dont on vit et nos environnements de plus en plus confortables? Bah, c'est que plus tu réduis entre guillemets l'exposition à des problèmes, à des stimuli, à des stress entre guillemets, et ben plus ton seuil laminaire est bas, et donc plus tu vas considérer ce qui autrefois n'était pas comme des stress comme des stresseurs. Et donc au final, tu vas pas avoir moins de stress, mais ça va être des choses plus basses, moins stressantes, qui vont devenir stressantes.
Comparatif. Donc peu importe, tout est comparatif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais le problème, c'est que il y a une chose qui ne change pas, c'est la vie. On peut pas contrôler le monde. C'est ça aussi le problème avec toutes ces personnes anxieuses. C'est cette idée de contrôle. Je peux contrôler le monde extérieur. Non, non, on peut pas. Non, on peut devenir plus fort et donc ressentir moins de stress. Si la vie va être à 7 au niveau de stress, de toute façon, tu vois ce que je veux dire? Donc, si ta capacité de stress est à 8, de dealer avec le stress est à 8, la vie de tous les jours est tranquille. Si ta capacité de dealer avec le stress est à 6, la vie de tous les jours est très, très dure. Mais le problème, c'est qu'on peut changer sa capacité par rapport au stress, mais on ne peut pas changer la vie. Et les gens essayent à chaque fois de réduire la vie en fonction de là où ils sont, eux. Alors qu'en vérité, ça ne marche pas du tout comme ça. En parlant de ça, tu as vu l'expérience avec les femmes et les cicatrices?
Non.
Ah, c'était marrant ça. Donc, ils ont pris un groupe de femmes et leur donnaient, ils mettaient, tu sais, au niveau maquillage, des cicatrices en leur disant, on veut voir, vous allez aller pour une interview de travail et on veut voir si l'intervieweur, quelle est la réaction par rapport à quelqu'un qui a des cicatrices, comment ça marche, et vous allez nous dire comment vous vous êtes senti. Et donc, ils leur montrent les cicatrices et tout ça, et donc, on va y aller. Et juste avant d'y aller, ils disent, laissez-moi juste faire juste une petite correction. Et en vérité, ils ont enlevé les cicatrices. Et donc, la bonne femme se retrouve en face de l'intervieweur et 85% de ces personnes-là étaient sûres que les cicatrices avaient changé la façon dont l'intervieweur leur parlait. Donc, elles étaient devenues victimes des cicatrices, alors qu'en vérité, elles n'en avaient aucune.
Ouais, ça montre à quel point le discours qu'on entretient avec soi-même. Et d'ailleurs, on peut refaire un parallèle avec l'alimentation, tu vois, parce que concrètement, tu vois, on prête des bienfaits ou des méfaits à tel ou tel aliment, mais tout ça, c'est un discours qu'on se raconte. L'aliment en soi, il est neutre, et c'est la façon dont il va interagir avec notre corps, notre muqueuse intestinale, etc., qui va lui donner ou non ce qu'on prétend vouloir lui donner. Et le discours intérieur qu'on entretient avec ça change beaucoup, à mon avis, la façon dont le corps va réagir.
La plupart du temps, le problème, c'est toi. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont tous en train d'étudier le machin, le truc. Non, c'est toi. Là, dis, 60% du temps avec l'entraînement, je dis non, c'est toi. Parce que je veux dire, non, mais je dois changer le programme. Non, c'est toi qui dois changer. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à pousser. Non, c'est pas le squat, c'est toi. Parce que pour prendre les 30 kilos sur le squat que tu veux prendre, ça va te prendre 1 an, 2 ans. Il va falloir que tu changes. La personne qui squatte 120 n'est pas la même personne que la personne qui squatte 150. Parce que tu vas apprendre une discipline de travail, tu vas apprendre à souffrir un peu plus, à avoir le poids sur les épaules et tout ça. Il va falloir changer qui tu es physiquement, même plus que ça, la personne entière. La personne qui squatte à 150 n'est pas la personne qui squatte à 120. Ça veut dire que pour gagner les 30 kilos sur le squat, tu dois changer qui tu es. Tu ne peux pas rester la même personne et prendre 30 kilos sur le squat. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il y a un niveau d'intensité qui va falloir apprendre à gérer, à créer même.
Ok, et du coup, cette relation entre la gestion de l'anxiété et le sport ou la pratique de la force, elle est liée à la fois au fait de souffrir et donc du coup peut-être de baisser le seuil liminaire à partir duquel on se sent inconfortable, et l'autre côté, c'est de se sentir plus fort pour manager et gérer des problèmes du quotidien, tout simplement parce qu'on se sent plus en sécurité dans notre corps.
Et c'est la même chose. Dis, gérer la douleur. Les gens qui sont très durs vont comprendre ça très bien. La douleur, c'est une. Tu sais, les émotions te mentent beaucoup. C'est moi parce que tu ressens quelque chose. Ça peut être ta réalité à toi à ce moment-là parce que c'est la façon dont tu as ressenti la chose. Mais ça ne veut pas dire que cette émotion-là soit réelle dans le monde. C'est réel pour toi à ce moment-là, on est bien d'accord, c'est ressenti. Mais ça ne veut pas dire que c'est lié à une réalité physique. Et donc, il y a énormément d'émotions qui te mentent en permanence. Et la douleur, il y a deux types de douleurs. On sait qu'on a cassé quelque chose qui généralement fait pas si mal que ça. Ça fait mal, mais c'est pas ce qui fait beaucoup plus mal, par exemple, c'est une brûlure. C'est tout ce qui est, de temps en temps, tu touches un nerf. Ça fait mal. Mais par exemple, tu t'es brûlé une fois, tu ramènes, tu touches quelque chose la deuxième fois, ça va faire extrêmement mal. Parce que dans ce cas-là, la douleur, c'est simplement un système d'avertissement qui te dit, hey, ça, c'est dangereux. On a ça sur tout ce qui est les mouvements de pattern qui sont pas bonnes. Le corps commence à créer un système de douleur simplement pour te dire d'arrêter de faire quelque chose. OK. Mais de temps en temps, ce système-là te ment. C'est-à-dire que tu es en train de faire des squats, tu sais, 100 kilos pour 30 répétitions. OK? Tu en es à 20. Ton corps te dit d'arrêter parce qu'il comprend pas pourquoi tu vas faire 30. Quelle est la nécessité d'aller de 20 à 30 répétitions pour le corps? Il n'y a pas d'ours autour. Personne n'est en train d'essayer de te tuer. Il n'y a aucune raison d'aller de 20 à 30. Donc, il va falloir que mentalement, tu crées une raison. À 21, le corps te dit non. À 22, non. À 23, hell no. Et donc, à chaque répétition, le corps va te dire, on peut arrêter, s'il te plaît. Et c'est ta tête qui dit, non, je vais aller à 30. Mais il n'y a aucune raison d'aller à 30. À moins que quelqu'un ait un flingue sur la tête. Et ça sera beaucoup plus facile en parlant de ça. Mais il n'y a aucune raison d'aller jusqu'à 30. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de ce côté-là qu'il va falloir développer. Et la douleur à 20, pardon, mais c'est un mensonge. Tu peux faire 30. Je veux dire, mais ça va faire très mal à 20. Et ça va faire encore plus mal à 21. Encore plus mal à 22. Et c'est comme sur une sled que, tu sais, quand tu fais des sprints sur une sled et t'as les cuisses qui brûlent. OK, mais tu peux faire deux pas en plus. On est bien d'accord. Donc, tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter. Pas parce que tu es vraiment tombé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a tout un système par rapport à ça qui est en vérité simplement un système qui est très nécessaire, le self-defense, qui est là pour t'arrêter de dépenser autant d'énergie. Mais il y a moyen de tourner ça, quoi. C'est une clé et il y a des moyens de passer au travers de ça. Et si tu arrives à faire ça, tu deviens plus fort, ta confiance en soi va monter et ta capacité à dealer avec la vie de tous les jours va être énormément plus facile maintenant. Donc ton anxiété négative va descendre. Parce que si tu peux faire ces conneries-là dans la gym, le reste est facile, quoi. Par exemple, si tu as peur physiquement, ok, deviens une ceinture noire de jiu-jitsu. Va à l'UFC, fais deux combats professionnels. Après ça, la peur physique va descendre énormément. Pourquoi? Parce que tu as changé, tu es devenu une personne capable de dealer avec le monde extérieur qui avant te faisait peur physiquement. Donc c'est ça la solution. Si tu as peur physique, non, on ne veut pas avoir des flics à chaque bout de rue, quoi. C'est pas ça la solution. La solution, deviens plus fort physiquement, capable de dealer avec le truc toi-même. Demande pas à l'État de changer les choses. C'est simplement une vie pour toi où tu es capable de dealer avec les problèmes externes.
Et du coup, quand tu dis deviens plus fort physiquement, en réalité, c'est d'abord deviens plus fort mentalement, puisque tu l'as bien exprimé,
Bien
c'est
sûr.
le mental et c'est le cerveau qui arrête la performance. D'ailleurs, j'avais lu un livre d'Alex Huntington, je sais plus très bien comment il se prononce, mais qui s'appelle Endurance, et justement, il s'était intéressé aux facteurs qui fondaient l'arrêt d'une performance quelle qu'elle soit. Donc même des choses extrêmement courtes comme de l'haltéro ou le fait de se faire un soulevé de terre hyper lourd, ou alors des choses extrêmement longues comme aller courir 400 km et finir en pleine, elle n'est pas hypnose mais
Oh.
hallucination parce que tu manques de sommeil. Enfin voilà. Et donc il a vraiment exploré toutes les façons différentes que le corps à d'endurer un stresseur. Donc pas endurer dans le sens forcément courir longtemps, mais endurer un stresseur. Et en fait, il a analysé l'hydratation, la température, le manque de carburant, etc. Tous les facteurs possibles, physiologiques, etc. Systématiquement, en réalité, ce qui fonde l'arrêt de l'effort, c'est le cerveau. Il garde toujours une marge de sécurité. Et comment est-ce qu'on peut le vérifier? C'est que quand le mec n'en peut plus, bah en réalité, si justement un ours arrive à ce moment-là, bizarrement, il arrive quand même à taper son sprint.
Mais tu sais qui en parlait de ça? C'était Eddie Hall, qui était le premier homme à faire un deadlift de 500 kilos. Et il en parlait, il a travaillé en psychologie pendant 6 mois de manière à arriver dans une zone mentale où il disait que la zone était tellement noire qu'il pensait avec des choses horribles et tout ça pour se mettre dans un état de ferveur tel qu'il n'arrivait pas à passer 465 kilos au niveau du deadlift. Et le jour de la compétition, il a fait 500 kilos assez facilement en parlant de ça parce qu'il était dans un état mental tel qu'il a réussi justement à rabaisser tous ces systèmes de prison qu'on a. En parlant de ça, il a presque eu une crise cardiaque derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pour ça que ces systèmes-là existent, parce que c'est la femme qui avait soulevé une voiture pour pouvoir tirer le gamin.
Oui, tout à fait. Et qu'ils étaient pété toutes les dents.
Selon ton parle pas, et qu'elle s'est déchiré le biceps et a pété 2 vertèbres. C'est pour ça qu'on peut pas soulever la voiture. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'il y a des moyens de le faire, mais il y a un prix à payer. Et donc quand tu t'entraînes dans la salle, ton corps te dit non, tu vas pas péter 2 vertèbres parce que sinon on va en mourir. Et donc c'est vrai que si je regarde le deadlift à la maison par rapport à la possibilité de retrouver dans une chaise, ça vaut vraiment pas la peine quoi. Donc le corps va te dire non parce qu'il y a pas besoin.
Ouais, cette zone de sécurité en soi, elle est nécessaire parce que c'est ça qui fonde notre survie. Mais d'un autre côté, à force d'avoir des vies trop confortables, eh bien, elle devient beaucoup trop grande.
Exactement. C'est ça l'anxiété négative. C'est le moment donné où ces systèmes de défense-là prennent une place beaucoup trop grande dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça l'anxiété en vérité. Donc, il n'y a qu'une manière d'en sortir, il faut devenir plus fort. Il ne faut pas essayer de changer le monde autour de toi, ce n'est pas possible. Et de toute façon, ça ne va qu'empirer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est devenir plus fort, mentalement, physiquement, généralement. Tu vois, c'est de se mettre dans des situations très inconfortables et gagner. Pas endurer, gagner, qui n'est pas la même chose.
Et si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont pas passionnés de sport, est-ce que tu as un ou deux exercices qui permettent, si tu devais en choisir juste un ou deux, qui permettent de développer la performance et la santé et justement cette musculation du mental?
Sans le sport, Elden Ring. T'as déjà joué Elden Ring sur PlayStation 5?
Non, j'ai pas dit sans le sport. J'ai dit deux mouvements de sport.
Pousser, c'est tout. Une sled, c'est très simple. Personne, tout le monde peut pousser un sled. Tu vois ce que je veux dire? Le sled, c'est...
Oui, mais tout le monde en a pas un dans son jardin.
Achetez-en un. S'il y a une manière facile de faire ça chez vous, l'idée, c'est justement de ne pas aller vers la facilité. Donc, si on commence la conversation du côté le plus convenient possible, le plus tôt facile, on a déjà perdu. C'est-à-dire que si tu commences à me dire, j'ai une anxiété monstrueuse qui vraiment, tu sais, impacte ma vie tous les jours, et je te dis, va faire une sled une fois par semaine. Oui, mais j'ai pas de sled autour de chez moi. Ok, donc on a déjà perdu. C'est-à-dire que tu es déjà en train de trouver des excuses pour ne pas faire exactement ce que tu as besoin de faire pour enlever cette anxiété-là. Et donc, cette anxiété-là, est-ce que tu veux vraiment l'enlever? Parce que si tu veux vraiment l'enlever, tu vas trouver une sled quelque part. Pardon, mais c'est vrai. Cette conversation où on me dit, oui, mais je peux pas faire ça. Ok. Et donc, l'anxiété va rester. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas assez souffert, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on va te donner des pilules, parce que les médecins vont te dire, moi, j'ai une manière facile de faire ça. OK. Et donc, la manière facile, on en revient sur réduire la charge.
Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'aller taper des sprints ou de faire un bain froid?
Oui, mais un bain froid, c'est toujours pareil. OK, on va s'adapter au froid. Et à ce moment-là, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Taper des sprints, ok, mais il va falloir faire des sprints plus durs, pas plus longs, mais plus durs, plus rapides. Les gens vont s'éclater les ischios. Tu vois ce que je veux dire? Le sled, c'est beaucoup mieux. Il y a des manières de s'entraîner de cette manière-là. Mais dès qu'on commence à arriver à quelle est la manière la plus facile de s'entraîner, on l'a déjà perdu.
Ouais, donc tu as besoin de cette surcharge progressive perpétuelle.
Ouais, perpétuelle.
Ou alors, si tu n'es pas... Et si t'es pas capable d'avoir une surcharge en termes de poids, on peut peut-être imaginer une surcharge en termes de variabilité. C'est-à-dire que à chaque fois, tu élargis ta zone de confort avec de nouvelles activités qui te permettent d'expérimenter de nouvelles choses.
Non, parce que les gens vont utiliser ça de manière à avoir un stress moindre. À chaque fois. On en revient toujours à la même idée. On en revient, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? C'est ce qui est le plus facile à faire, être anxieux. C'est très facile. C'est ce qui est très dur, devenir plus fort. C'est ça qui est dur. Donc, la discipline, ça, c'est dur. Trouver une sled, commencer à pousser la sled jusqu'à que les jambes crampent pendant 10 minutes après. Ça, c'est dur. Et en parlant de ça, j'ai eu des gens qui étaient très anxieux, donc ils sont venus me voir. Je leur ai dit exactement quoi faire. On commence à s'entraîner une fois par semaine, deux fois, mais les entraînements sont très durs. OK? Et donc, à chaque fois, c'est crampes et tout ça. Les mecs, ils sentaient vraiment pas bien. Au bout de 3 semaines, ils se disent, je me sens tellement mieux, ça marche tellement bien, c'est extra. 2 semaines après ça, 80% ont arrêté de s'entraîner. Et qu'est-ce que tu crois qui s'est passé un mois après?
Bah, le retour de l'anxiété.
Évidemment. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Est-ce qu'on peut faire le sled, mais est-ce qu'il y a un autre moyen de faire? Est-ce qu'on pourrait peut-être faire ça au lieu du sled? Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait? Dès qu'on commence avec ces questions-là, l'anxiété va revenir. On ne peut pas changer le système.
Tu connais les misogies?
Non, je ne crois pas.
Alors, les misogies, à la base, ça vient de la culture japonaise. Je sais plus quel moine faisait ça. C'était une espèce de rite d'initiation où il devait rester sous une cascade d'eau gelée. Et donc,
Oui,
c'était
ça
un
je
défi
connais.
physique.
Ouais.
Mais ça a été occidentalisé, notamment aux États-Unis. En France, ça n'existe pas. Et
Non,
donc, l'idée, c'est de chaque année se fixer un misogie, justement. C'est un défi psychologique qui se déguise dans un défi physique. Et en fait, il n'y a que deux règles. Et ces deux règles vont beaucoup te plaire. La première, c'est 50% de chances d'échouer, et la seconde, c'est ne pas mourir. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que parce que tu disais, oui, mais si tu proposes aux gens de sortir de leur zone de confort, etc., ils vont toujours choisir des choses relativement confortables. Mais de par cette première règle du misogi, si t'en fais 10, un par an, pendant 10 ans, ben en fait, tu devrais avoir échoué la moitié du temps. Si t'as pas échoué la moitié du temps, c'est que tu faisais pas des choses suffisamment difficiles. Et au final, c'est pas facile d'échouer la moitié du temps, surtout quand t'es motivé.
c'est pour ça que je parlais d'Elden Ring. C'est un jeu qui est très connu. C'est le meilleur jeu qui a été jamais été créé. C'est un jeu japonais en parlant de ça. C'est un studio japonais qui a créé ça, qui s'appelle From Software. Ils appellent ça Soul Games, qui sont très connus pour ça. Tu te fais cartonner en permanence.
Et c'est un jeu de quoi?
De ce qu'ils appellent RPG, tu sais, de PlayStation 5.
Oui, mais c'est quoi? C'est des voitures, c'est des combats, c'est quoi?
Non, c'est des combats. C'est-à-dire, c'est un mec qui, tu sais, c'est un open world, il se balade, et t'as des boss fights en permanence, des trucs comme ça. Et tu
Ok.
te fais cartonner en permanence. C'est-à-dire que le première chose que tu fais, t'es dans le jeu depuis 20 secondes, t'as un boss contre lequel tu ne peux pas gagner. Il va te tuer. Directement. Et tu commences comme ça. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est très japonais. Donc, on commence dès le départ. Et après ça, il va falloir développer une stratégie et tout ça. Mais la frustration par rapport à ce jeu est monstrueuse, quoi. Parce que tu te fais cartonner en permanence. Donc, c'est 90% d'échecs. Mais. Et pour ça, c'est très japonais. J'adore cette manière-là de penser. Et c'est la seule manière possible de sortir d'une anxiété. Et c'est ça que j'ai fait. Même, on travaille là-dessus par rapport à UCLA. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès que les gens commencent à t'expliquer qu'il y a un système de manière A, ils essaient de te vendre quelque chose. C'est pas autre chose. Ça, c'est le problème avec la société très capitaliste. Je suis du côté capitaliste, on est bien d'accord. Mais ça reste le problème par rapport à ces choses-là. À chaque fois qu'il y a un système, par exemple, qui me permet de traiter l'anxiété, j'ai eu des résultats exceptionnels par rapport à ça. C'est pour ça que je travaille avec UCLA. À chaque fois, il va y avoir quelqu'un qui va me dire, oui, mais cette manière-là est plus facile. Oui, c'est pour ça que ça va pas marcher. Quand il y a quelqu'un, il y a un docteur qui va arriver avec une pilule ou avec un système. Oui, mais si je le fais comme ça, et si je fais que des bains froids, l'état d'esprit est mauvais. Ok, il va faire des bains froids, ça va marcher pendant 3 semaines. Et maintenant quoi? Parce qu'en vérité, ils veulent pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? La plupart du temps, les gens ne veulent pas faire l'effort nécessaire pour. C'est pour ça qu'il y a une anxiété qui est là au départ. C'est ça le problème.
Et tu vois, tu dis les gens veulent pas le faire. Et d'un autre côté, tu
Non.
vois, si je te parle d'expérience, j'ai la sensation, par exemple, que le fait de m'être mis au sport m'a permis de mieux gérer mes émotions, donc de mieux dormir, donc d'avoir plus d'énergie le matin, donc d'être plus productif dans mon travail, donc d'avoir plus de temps pour faire du sport. Et tu vois, il y a une espèce de cercle vertueux comme ça qui se crée et dont tu tombes accro, je trouve, et qui est autoréalisateur et qui te donne un feed. Tu vois, c'est pas comme si tu devais faire quelque chose en te disant, ouais, je fais ça pour ma longévité et j'aurai peut-être les résultats dans 50 ans. Non, la semaine d'après, tu te rends déjà compte que t'es mieux. Donc, c'est surprenant que ça suffise pas à les motiver et à entretenir leur motivation.
J'ai donné la solution comme ça dans la main des gens, mais juste la solution, elle est là. Elle est ici, elle est très simple, elle est ici. Voilà, prends-la. Et 60%, 70% des gens refusent au bout de 3 semaines. Ok, je sais ce qu'il faut faire, je me sens mieux, j'arrête. Bien sûr, on part en sucette à chaque fois. Et de là, au lieu de revenir faire ça parce qu'ils disent, ça c'est dur, je ne veux pas le faire, ils vont essayer de trouver quelque chose qui marche, mais qui est moins dur. Donc, il y a toujours cette négociation en permanence par rapport à ça. Et le moment où tu commences à négocier est le moment où tu as perdu. Non, il faut faire quelque chose de dur.
Quelle stratégie justement t'as réussi à mettre en place pour éviter ce down au bout de 3 semaines, si ton but c'est d'aider les gens?
J'ai pas réussi. C'est en fonction de la personne. Si la personne vraiment veut s'en sortir, il s'en sort. S'ils veulent pas, ils veulent pas.
Il faut que le
J'ai pas
problème soit
réussi.
suffisamment douloureux. Et donc en fait, quelqu'un qui a pas suffisamment de problèmes, qui est pas suffisamment anxieux, quelque part, le problème sera pas assez grand et donc il n'arrivera pas à être suffisamment motivé, quoi.
Et
C'est
c'est
con.
60% des gens. En vérité, ils souffrent pas assez, quoi. Parce que leur souffrance, c'est vraiment mondaine, quoi. Pardon, mais c'est vrai. Dis, je vis au Brésil. Quand j'entends l'Occident parler de j'ai des problèmes, je garde ça sur Instagram, sur YouTube, et oh, j'ai des problèmes, j'ai, oh, vraiment. Venez ici, vivre un peu. Et, bref. Tu vois ce que je veux dire? Vous souffrez pas assez, c'est tout. Souffrez un peu plus, et le sled, et tout d'un coup, on se dit, oh ouais, si le sled au lieu de OK, j'arrive, tu vois ce que je veux dire?
Faisons une petite parenthèse sur le sujet. T'as vécu aux États-Unis, là tu vis au Brésil. Qu'est-ce que le fait d'avoir vécu à l'étranger t'a permis de... Qu'est-ce que t'aimerais dire aux Français? Quels enseignements est-ce que t'as tiré de ces autres cultures et qui te sembleraient riches d'enseignements pour nous qui vivons en France et qui sommes peut-être jamais partis?
Apprenez l'anglais. On va commencer avec ça. Parce que vous réalisez pas ça en France, mais il y a énormément de gens qui ont ce travail de simplement traduire le système américain en français et ils vous vendent ça. Le problème, c'est que c'est une traduction, donc c'est pas le système initial. Et en plus, c'est la version française d'un système, mais même le système américain, le système est américain, il n'est pas français, il n'est pas européen, et ça marche pas pour nous de toute façon, parce que la culture française est très différente. Donc il faut déjà commencer à comprendre les influences de la vie de tous les jours. Et Instagram, YouTube, tous ces trucs-là, c'est basé d'abord sur un système anglophone. Donc apprenez l'anglais et apprenez comment les Américains marchent directement, parce que vous allez voir que ça marche pas du tout par rapport à la culture européenne. Et après ça, c'est-à-dire que, tu sais, les Français adorent les idées. On peut parler d'idées en permanence. Ça, c'est la culture française qui nous donne une force, qui a toujours été une force de la culture française par rapport à la philosophie, le côté artistique et tout ça. Mais les Français adorent avoir une conversation sur la conversation. Tu vois ce que je veux dire? Mais là où ça commence à foirer à chaque fois, c'est quand il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut arrêter de parler, il faut faire. Hein? C'est là que tu perds 80% des gens. C'est-à-dire que à chaque fois, les gens veulent toujours savoir, veulent toujours parler du deadlift avant de faire un deadlift. J'ai dit, t'as fait un deadlift? Non. Donc, on va commencer avec le deadlift. Et quand tu vas te taper contre une limite, on peut commencer à parler de technique. Mais avant ça, il faut faire la chose. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant des mois avant de commencer à faire les choses. Et on peut en parler après. Tu vois ce que je veux dire? Mais. Et ça, c'est la culture française, c'est qu'on parle beaucoup et on ne fait pas assez. Je me suis fait cartonner quand je suis arrivé aux États-Unis parce que le volume d'entraînement aux États-Unis par rapport au volume d'entraînement en France était barjot. Les mecs, ils se levaient le matin à 4 heures pour aller à la gym à 5 heures, ils partaient au boulot, ils revenaient, ils s'entraînaient encore et ils allaient chez eux. Tu sais, j'arrive de Paris bien soft, tu sais, je m'entraîne 3 fois par semaine, ouh! Et les mecs, je me dis, mais vous n'êtes pas fatigués? Je comprends pas, tu vois ce que je veux dire? Et donc, La culture française a été une très très grande culture. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu beaucoup de choses. Et je pense qu'on en est à un moment donné où on fait que parler maintenant. Apprenez l'anglais, allez voir comment ça se passe à l'extérieur et commencez à travailler beaucoup plus dur, honnêtement. Et les semaines françaises à 32 heures, c'est la connerie.
Tu sais, c'est marrant parce que moi je suis entrepreneur et il y a parfois des entrepreneurs qui viennent me voir pour avoir des conseils, tu vois, que je donne gratuitement parce que ça me fait plaisir. Et ça m'arrive quand même souvent de demander, ok, et quel est réellement ton problème là maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de développer ton truc? Et puis souvent, ça arrive quand même souvent qu'ils me répondent, bah je sais pas par où commencer. Enfin voilà, et en fait ils ont rien lancé, en fait ils sont
Oui,
juste
ils n'ont rien
encore dans le monde
commencé.
de l'idée,
Ouais.
ils sont en vase clos dans leur tête, et puis moi je leur dis bah commence déjà par créer quelque chose et puis après tu auras un problème et à partir de ce problème on trouvera des solutions, mais là il y a rien quoi, il y a pas de
C'est
base,
quoi
ça
ton
sert à rien ce que
problème?
tu
Exactement. Comment tu vas trouver une solution avant de savoir quel est le problème? Ça, c'est les Français, tu vois ce que je veux dire?
Mais ça, tu vois, c'est aussi lié d'une certaine façon au stress et à l'anxiété, c'est parce qu'on a envie
Oui.
de trouver la formule magique avant de se lancer pour être sûr de pas
Exactement.
échouer.
C'est la formule magique, mais ça, bon, ça, c'est tout le monde. Mais c'est vrai que je vois ça beaucoup avec les Français à l'heure actuelle, c'est le côté la formule magique de manière à éviter les problèmes. Non, non, ça n'existe pas. Et donc, pour moi, c'est le problème numéro un. Le problème numéro deux, c'est que si tu bosses 35 heures par semaine, tu ne vas jamais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Il faut bosser. Faut bosser. Et pardon, mais le volume, ça compte. Tu veux réussir quelque chose comme entrepreneur, c'est 50 heures par semaine, 60. Tu vois ce que je veux dire? Je passe 2, 3 heures. Pendant des mois, par exemple, quand j'ai commencé sur le lactate, ça a été 6 mois, 3 heures par jour d'études. De lire des études, de regarder. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à parler du lactate, mais je me suis tapé 6 mois, 3 heures par jour à lire des études sur le truc. Dis, c'est pas exactement fascinant comme sujet, quoi.
Ouais,
Mais.
après je modulerai quand même ce que tu dis parce que moi tu vois j'ai eu des phases où je travaillais 80 heures par semaine et en réalité ma vie était complètement déséquilibrée, j'avais pas le temps de faire du sport, de marcher, etc. Et
Exactement.
aujourd'hui je m'aperçois que le temps que je passe par exemple aller marcher en nature m'aide à avoir de meilleures idées, le
Mais
temps que
ça,
je passe avec ma fille, enfin tu vois.
ça reste travailler. Par exemple, Einstein le disait, il a résolu la plupart de ses problèmes en allant marcher le soir. Oui, mais avant
Ouais,
d'aller marcher le soir, il avait
il
passé
a
6 heures
travaillé.
à étudier le truc. Et c'est à ce
Ouais, je suis d'accord.
moment, donc ça fait partie du boulot aussi, tu vois, c'est-à-dire ces moments-là, de manière à pouvoir. Et 80 heures, on est bien d'accord, c'est trop. Mais 30 heures, c'est aussi pas assez, quoi.
Ouais. Et puis après,
Donc,
il
il y a
faut voir ce
quelque
qu'on
chose
met
de
dans le
mieux.
mot travail. Parce que tu vois, en fait, dans le mot travail,
Oui.
t'as potentiellement tes phases de deep work, t'as potentiellement les mails, etc.
On est
Mais
bien
t'as aussi
d'accord.
peut-être le temps passé à la lecture, à la formation, voilà, le
Exactement.
temps à passer à marcher dehors, à laisser ton esprit faire des liens entre plusieurs concepts, à réfléchir en réalité.
Exactement.
Tu vois,
Réfléchir.
et ouais, voilà.
Effectivement.
Oui, mais je pense que c'est important d'apporter cette nuance parce que on est, enfin, moi, tu vois, je suis parfois tombé dans le piège de la productivité, essayer de toujours faire plus. Et en fait, dans le fait de faire, bah, j'en oubliais de être. Et être, ça m'aide à mieux faire.
On est bien d'accord. Je ne pense pas que ce soit un problème très développé en France. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bah comme j'ai l'habitude de dire, certains manquent d'énergie et ils cherchent comment en trouver. Et moi, j'en ai trop et j'ai parfois du mal à la canaliser. Mais
On est bien d'accord. Mais donc, tu te donnerais très bien aux États-Unis, mais je ne pense pas que ce soit un problème fréquent en France.
d'ailleurs, on pourrait même se demander si c'est vraiment un problème. Moi, pendant un moment, j'ai pensé que c'était un problème, et j'ai essayé de me conformer un petit peu à une espèce de voie du milieu que la société me donnait l'impression de devoir chercher, jusqu'à comprendre qu'en réalité, c'était ma personnalité et que j'ai besoin de journées hyper stimulantes avec beaucoup de défis et beaucoup de choses à faire, parce que ça me donne de l'énergie et je me sens bien comme ça, et les rythmes lents, me fatiguent, m'énervent et me dépriment en réalité.
Dis,
Donc, en
en
fait, j'ai
parlant
juste accepté qui j'étais.
de 80 heures par semaine, tu serais flemmard avec les gens avec qui je travaille. Sans déconner. Ouais, non, non, le système américain, c'est autre chose. Mais 80 heures, c'est n'importe quel CEO aux États-Unis. En parlant de ça, 80 heures, j'ai bossé avec des gens qui disaient qu'ils bossaient 100 heures. Mais j'ai eu aussi des meetings de 3 heures qu'on aurait pu faire en 30 minutes.
Ouais, Ouais.
Donc, on
Bah,
est
on
bien
en revient.
d'accord que quand ils te disent 100 heures par semaine, c'est de la connerie aussi. Mais.
On en revient à ce qu'on a dit au début du podcast. Tu vois, moi, le fait de différencier ce qui est important de ce qui est urgent, de consacrer mes matinées à ce qui est important et mes après-midi à ce qui est urgent, mais pas forcément important, rien que ça m'a fait un gain de productivité phénoménal. Et tu vois, aujourd'hui, je travaille plus 80 heures, je travaille peut-être 45 ou 50 heures.
C'est ça, c'est
Après, là-dedans, j'inclus pas peut-être les 10 heures de sport que je fais par semaine, etc. Tu vois, qui sont, est-ce que c'est du travail, est-ce que c'est pas du travail? Bah, c'est un peu du travail aussi, parce que tu vois, ça m'aide aussi à faire des liens dans ma tête, ça m'aide à réguler mes émotions,
10 heures de
et
sport
puis
par semaine, tu t'entraînes plus que moi.
oui, mais c'est parce que là, je m'entraîne pour des gros efforts en endurance.
Non, mais donc, ça, on en revient à la nutrition. C'est pas nourriture ingérée, c'est nourriture digérée, c'est la même chose. L'entraînement, c'est pareil. Le boulot, c'est pareil. C'est pas 50 heures, 60 heures, c'est combien d'heures de productivité, c'est ça qui compte. C'est les heures de travail digérées qui comptent, pas les heures de travail produites.
Oui, mais justement, tu vois, dans mes 10 heures, y a des efforts intenses, certes, mais il y a aussi pas mal d'efforts de zone 2, tu vois, de basse intensité, qui sont du coup beaucoup moins engageants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis, la frontière entre travail et pas travail, elle est ténue, parce que justement, pendant ces entraînements-là, c'est des moments où je peux écouter des podcasts qui me font grandir en connaissance, c'est des moments où je peux écouter des livres audio, c'est des moments où parfois je peux simplement justement réfléchir à des problèmes que j'ai. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est assez marrant, mais j'ai maintes fois remarqué que je trouvais mes meilleures solutions en marchant ou en courant. Et pour autant, quand je suis débordé et face à un problème, mon réflexe, ça va quand même être d'essayer de passer plus de temps dessus. Alors même que je sais que la meilleure chose à faire, c'est de défocus, quoi.
Et ça, c'est ta nature à toi, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faut apprendre à gérer ces trucs-là. Moi, c'est toujours pareil. Je lis énormément d'études et j'ai une salle dans ma tête où je vais, où je mets les études. J'écris tout comment ça se dit, blackboard,
Un tableau.
sur un tableau et je le laisse là, décanter. Et je reviens dans cette chambre-là 2 mois avant et la solution s'établit comme ça. Mais donc, je travaille d'une manière très très spécifique qui ne me marche que pour moi. Mais j'ai tu sais, des pièces dans ma tête où je laisse certains travails se faire. Et donc, mon travail que les gens voient, c'est étudier énormément, mais le reste se fait derrière. Et donc, pouvoir marcher au truc comme ça permet à ces pièces-là de faire leur travail à eux, mais qui n'est pas nécessairement un travail conscient tout le temps. Donc,
Je comprends.
il y a des manières de faire comme ça, mais ça reste quand même énormément. Il y a quand même un volume de travail énorme que tu fais, quoi. C'est quand même nécessaire. Donc après, c'est une question de productivité, on est bien d'accord. Mais la base, ça reste, tu mets quand même pas mal d'heures de boulot.
Ouais, je suis d'accord.
L'entraînement, c'est un peu pareil, il faut s'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'entraînes 2 heures par semaine. OK, mais donc les résultats vont correspondre par rapport à ça un peu, quoi. Dis, mon truc le matin avec les 100 répétitions, je le compte pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je le fais pas, mon bench, il sera pas dans un an. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
Et ça, les
complètement.
gens ne veulent pas le faire. C'est toujours le truc, ah ouais, mais j'ai pas envie. On est bien d'accord. T'as pas envie, on est bien d'accord. J'ai pas envie non plus, en parlant de ça. Mais je leur dirais ça aux Français, avoir envie ou pas n'est pas la question. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le faire, c'est tout. Il faut arrêter avec ces conneries de. Ouh, ouais, mais tu sais, en fonction. Non, faut le faire, c'est tout. Arrêtez de parler. Faites-le et faites-le pendant 6 mois. Fermez vos gueules. Faites-le pendant 6 mois et on commence à partir de là, quoi.
Ouais,
Arrêtez de parler tout le temps.
sur ce sujet, tu vois, parfois on me demande comment je fais pour être aussi discipliné. Et en réalité, je dis, c'est le plus facile d'être discipliné. Parce que justement, tu vois, moi, je me pose pas la question de est-ce que je fais, est-ce que je fais pas,
On
qu'est-ce que je
parle
ressens.
pas, tu
Paf,
fais, c'est.
c'est prévu, je le fais, tu vois, je me pose pas de questions. Tandis que si tous les jours, je vais ajouter dans mon système la charge cognitive de me demander si, oh, aujourd'hui, est-ce que je suis motivé, est-ce que je suis pas motivé, est-ce que je fais ou est-ce que je le fais pas. Oh, mais rien que d'en parler, ça m'angoisse.
Si je commence à me demander si je veux m'entraîner, la plupart du temps, la réponse est non. Jay Cutler, 4 fois Mister Olympia, 10 fois top 2, qui est quand même extraordinaire. Pendant 10 ans, le mec a soit gagné Olympia, soit terminé deuxième, quoi. Quand même extraordinaire. Il disait, lui, qu'il avait une session sur trois qui était bonne. C'est-à-dire que Jay Cutler, avec les drogues et tous ces machins, son boulot et tout ça, avait 2 sessions sur trois où il disait, ah, whatever, c'était juste du travail. Ça te dit quoi par rapport à l'entraînement, quoi? C'est faut faire le boulot, c'est tout. Arrêtez de me demander si vous voulez le faire ou pas. Tu veux dire. Oui, mais est-ce que... Non, non. Bosser, c'est tout. La plupart du temps, c'est simplement du boulot. Ils disent en anglais, 80% de la réussite, c'est showing up, quoi.
Et je te fais un parallèle avec avec le stress d'une certaine façon. Tu vas voir où je veux en venir. Donc tu as dit tout à l'heure que le stress n'était pas forcément négatif, que c'était une énergie et qu'elle devait être utilisée d'une certaine façon. Donc une bonne façon d'utiliser, d'ailleurs, on l'a vu dans il y a un livre qui s'appelle Les zèbres ne font pas d'ulcères, quelque chose comme ça,
Oui.
qui montre que les zèbres, ils sont tranquillement en train de brouter de l'herbe, il y a un lion qui arrive, ils se mettent à courir à fond, et puis après ils tremblent encore pendant 2 minutes pour évacuer toutes les catécholamines, etc., qu'ils ont sécrétées, et après paf, ils recommencent à brouter de l'herbe. Et nous, en fait, on a nos stress mentaux cognitifs qui restent à l'intérieur de nous et qu'on n'extériorise pas et donc qu'on peut pas libérer, on va dire, dans le sport. Donc ça, c'est quelque chose que tu as déjà largement sous-entendu dans ce que tu as expliqué tout à l'heure. Maintenant, là où je voudrais t'emmener, c'est comment est-ce que ces stress se cumulent ou se neutralisent les uns les autres. Je m'explique. Parce qu'au final, la charge mentale, c'est un stress. Le fait de faire un bain froid, c'est un stress. Le sport, c'est un stress. Tout ça, au final, c'est des stress. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'on considère que, tu vois, moi, par exemple, après une grosse journée, je suis crevé. Si je vais faire du sport, ben, peut-être que je vais me sentir moins stressé après, entre guillemets, comme si ça avait diminué ma chasse d'eau. Et pour autant, pour d'autres personnes, au contraire, ça va faire déborder leur chasse d'eau, tu vois. Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que t'objectives cette articulation? Et parce que sinon, tu peux tomber dans l'excès inverse, tu vois, de faire trop de choses, d'ajouter trop d'éléments, etc.
Il faut établir la différence entre un stress chronique et un stress aigu. Le zèbre, il a un stress aigu quand le lion arrive. Et après ça, il redescend à zéro. Aigu, zéro. Donc, le problème, ça n'est pas le stress. Le problème, c'est le stress chronique. Donc, le grand problème, c'est sortir du stress chronique. Par exemple, on voit ça au niveau de l'inflammation. Inflammation aiguë, c'est pas grave. Parce que c'est une indication d'un système immunitaire très fort. Le problème, c'est un système inflammatoire chronique. On est en
Donc attends,
permanence.
juste
Oui.
donc la réponse aiguë, ça serait une grosse poussée de fièvre après un rhume et
Dès que tu as un truc, le corps, il part en sucette tout de suite.
comme les enfants.
Il essaye simplement de taper sur le truc et de régler le problème tout de suite, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc,
Et l'inflammation chronique, elle se caractérise comment?
tu sais, par exemple, rétention d'eau, c'est
Perméabilité intestinale. Ouais.
des choses comme ça. Un système sympathique, tu sais, élevé, mais pas suffisamment, juste un peu en permanence, des trucs
Tu
comme
penses que
ça.
la VFC est un bon facteur pour suivre ça?
Non. Le facteur, donc ça se voit au niveau mitochondrial, en vérité. Il y a un truc qui s'appelle un cycle salut-génésis, en anglais, on l'entend. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a trois types de mitochondries, en vérité. Il n'y en a pas un, il y en a trois. Et c'est un cycle de trois choses. Le premier cycle, c'est création de l'inflammation. Le premier cycle est inflammatoire. Le deuxième cycle, c'est propagation. Et le troisième cycle, c'est guérison. Donc c'est inflammation, propagation, guérison. Il faut toujours terminer le cycle. Et donc, le problème avec le système chronique inflammatoire, c'est que tu n'arrives jamais au système guérison, tu es en permanence au système propagation. Parce que la seule manière de terminer le cycle, c'est un système de stress aigu. Donc, le problème avec un système chronique, c'est qu'en vérité, tu ne termines pas le cycle jamais, même au niveau. J'ai expliqué au niveau mitochondrie, mais ça marche pour le système nerveux, pour le système entier, parce que ça commence, tout ce qui commence au niveau de la cellule, en vérité, va grandir en un système entier. C'est pour que là, ce système émotionnel est lié au système immunitaire, parce que c'est la même chose. C'est une expansion du système immunitaire, en vérité, le système émotionnel. Bref, c'est autre chose, ça. Donc, la seule manière de sortir du système chronique de stress, c'est d'arriver dans un système de stress aigu, de manière à pouvoir fermer la boucle. Donc, le problème, c'est que la plupart des gens sont toujours en état chronique, vont à la gym et s'entraînent, mais pas très dur. C'est-à-dire qu'ils endurent énormément. Ils font du cardio, ils se stressent, mais ils se stressent en dessous d'un système aigu. Et donc, en vérité, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à monter ce système chronique-là. Alors, okay, la meilleure chose à faire, c'est d'arriver à la gym, se donner une baffe courte, très intense, énorme, et ressortir de manière à pouvoir fermer ce cycle-là et de abaisser le système chronique. La seule manière de rabaisser Le système chronique, c'est d'augmenter le système aigu. Et c'est ça que les
Ok.
gens ne veulent pas faire.
Deux questions par rapport à ça. Je vais commencer par la plus simple et puis après, j'ai juste une petite question personnelle sur la physiologie pour bien comprendre ce que tu dis. Donc, on va commencer par la plus simple. Après y avoir été à fond pleine balle, est-ce que tu recommandes un retour au calme complet? Tu vois, genre, tu te couches par terre ou tu fais un peu de méditation ou un sauna?
Moi, par exemple, un bain froid. Qu'est-ce
Ou un
que
bain
c'est un
froid?
bain froid? C'est un système aigu, c'est pas un système chronique. Par exemple, si les gens veulent faire un bain froid, mais pas trop froid, tu sais, genre 18 degrés, et te disent, ouais, 10, c'est froid pour moi, 18 degrés, à chaque fois que je rentre dedans, ouh, je sens que c'est froid. Ça ferait quoi?
Chronique.
Parce que c'est froid un peu. Et c'est
Ouais,
ça qui font les gens que
c'est
c'est
juste
froid.
un stress, mais c'est pas un stress aigu, ok.
C'est pas un stress aigu. Les gens font la même chose avec l'entraînement. C'est un bain froid à 16 degrés. C'est pas un bain, c'est pas l'idée. L'idée, c'est à 3 degrés, pas à 16. Tu vois ce que je veux dire? Les gens disent, oui, mais 3, c'est vraiment froid. Donc, à 16, je sens que c'est froid. Donc, c'est la même chose. OK? Non, c'est pas la même chose. Donc, c'est par rapport à l'entraînement. Les gens, c'est la même. Ils poussent, mais ils poussent à 16. Ils poussent pas à 3 degrés, quoi. C'est pas
Et
vrai.
activer le parasympathique avec de la méditation ou un truc comme ça marcherait pas?
C'est impossible à faire après un entraînement dur, parce qu'il faut attendre que l'état. C'est pour ça que les zèbres, ils continuent à faire ça. Il y a un moment donné, il faut passer le seuil et de là, tu peux revenir. Mais il
Ok.
va falloir passer un seuil d'abord, quoi. Le système
Tu peux pas éteindre
chronique,
l'incendie si tu l'as pas laissé bien brûler avant, quoi.
il faut au moins arriver à une certaine température avant de pouvoir calmer les choses. Le système nerveux marche d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire, c'est il y a tout un système en place qui est. Il faut bien comprendre qu'on a évolué à partir d'une cellule, mais le système est le même, il est simplement beaucoup plus évolué, beaucoup plus complexe. Mais ça reste quand même le même système qu'on avait avec la cellule, quoi. La nature n'a rien créé, elle a simplement pris un système de base qu'elle a continué avec une certaine évolution, quoi. Mais en vérité, nous sommes des grandes cellules, c'est pas autre chose que ça, quoi.
Et donc l'autre question que je voulais te poser, plus technique, plus physiologique, t'as parlé de trois types de mitochondries. Alors moi, dans ma compréhension, jusqu'alors, les mitochondries, c'était surtout des bactéries qui permettaient de construire et de créer de l'ATP. Là, tu les relis au système inflammatoire, qui pour moi était plutôt médié par les cytokines, les interleukines, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont ces trois types de mitochondries d'une part, et d'autre part, le lien avec l'inflammation, qui doit être un processus différent de tout ce qui est phosphorylation oxydative, etc.
Le système inflammatoire, OK. Donc, imagine une cellule. Quel est le mode de communication de la cellule avec le monde externe? C'est-à-dire que la cellule ne peut pas exister sans le monde externe. Il faut bien avoir une délimitation entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Donc, on a la membrane de la cellule qui est le contact, donc ce qu'ils appellent Markov blanket pour tout ce qui est, tu sais, système de probabilité et tout ça. Mais quel est le système de communication de la cellule avec le monde externe? Ça va être son système immunitaire. C'est-à-dire qu'elle va absorber quelque chose de l'extérieur et soit il est négatif et rejeté, soit il est positif, absorbé, et ça maintenant fait partie de la cellule. Donc, mais n'importe quelle chose qui est ingérée doit être d'abord testée. Hein? De manière à savoir si c'est bon ou pas.
Ouais, tout à fait,
Ce
ça fait sens.
test-là est un système inflammatoire. Pourquoi inflammatoire, c'est quoi? C'est simplement, on va attaquer ce qui est là de manière à tester pour voir si c'est positif ou négatif.
OK.
Donc, la première chose que tu fais dans n'importe quel mode de communication avec l'extérieur, c'est un système inflammatoire, un système qui est devenu sympathique, qui est simplement une manière de tester la chose pour voir si cette chose doit être rejetée ou ingérée. Right. Et si tu regardes au niveau émotionnel, c'est exactement la même chose. donc, il y a tout un système de psychiatrie qui est en train d'être créé avec l'idée qu'en vérité, le système émotionnel est simplement le système immunitaire, cette première base de communication, le monde externe, qui a évolué avec l'être humain, jusqu'à l'être humain, en attendant,
C'est
de ce
hyper
côté-là.
intéressant.
Ouais. Et donc, l'idée, c'était que production d'énergie est nécessaire pour tout ce qui se fait. Mais donc, d'abord, c'est inflammatoire. Après, c'est propagatoire parce que il faut pouvoir englober toutes ces choses-là. Et de là, donc imagine, tu t'es coupé. D'abord, ça devient rouge. On est bien d'accord. Parce qu'il va falloir attaquer tout ce qui est les germes, tous ces machins-là, quoi. Et donc, propagatoire de manière à avoir tout le truc. Et après, ça commence à se fermer. C'est-à-dire, en vérité, même au niveau cellulaire, c'est exactement le même processus. Tous les processus commencent de la même manière parce que c'est comme ça qu'on a commencé comme entité cellulaire.
Et je le comprends, mais la mitochondrie, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Parce que la mitochondrie, c'est un organite qui est pas lié à ces processus inflammatoires.
Parce que non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, il y a un certain type de mitochondrie qui va aider d'abord au système inflammatoire, un autre qui va
Ok.
aider jusqu'au système propagatoire et un autre qui va
Ok.
aider à l'énergie nécessaire pour la guérison. Parce que, en vérité,
Et c'est
cette
trois types de
énergie-là n'est pas
mitochondries
la même.
différentes ou c'est la même qui prend trois phases différentes?
Non, 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 je crois que je ne suis pas un biologiste. Je t'envoie
Non,
un
non, mais
exemple.
c'est intéressant.
C'était trois mitochondries différentes, trois types de
Ok.
mitochondries qui étaient basées là-dessus. Après, j'ai étudié ça il y a 2 ou 3 ans, donc ma mémoire n'est pas. J'arrive pas à mémoriser les choses. Donc c'était le système en lui qui m'avait très intéressé, mais honnêtement, j'ai horreur de la biologie, donc j'ai pas regardé après ça. J'ai dû
Non, mais
étudier
c'est
l'IA4 parce que j'en avais besoin, mais j'ai horreur de la. Honnêtement, la biologie est quelque chose dont j'ai horreur. J'ai étudié suffisamment, mais pas après ça.
et je trouve que c'est hyper intéressant parce que bon là tu vois c'est des notions physiologiques complexes mais par contre les trois systèmes eux sont facilement compréhensibles et transférables et surtout le fait de voir les émotions et la gestion psycho-émotionnelle comme une première expression du système immunitaire d'interaction avec l'environnement, c'est une perspective extrêmement riche de sens. Et donc, t'es en train de me tester pour voir si tu vas m'ingérer ou me rejeter, c'est ça?
Toujours. Donc, c'est un truc, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre l'anglais. Ça s'appelle Affective Immunology. Donc, en français, tu traduis ça. Et donc, c'est quelque chose qui, dans la psychiatrie actuelle, au moins aux États-Unis, on commence vraiment à aller de ce côté-là. On parle au niveau, tu sais, académique très haut et tout ça, pas au niveau, tu sais, psychiatre de base. On parle, donc UCLA, tu sais, au niveau académique très très haut. Mais c'est un new field, un nouveau, une
Un nouveau
nouveau,
champ d'études.
voilà, un nouveau champ d'études, pardon. Un nouveau champ d'études de la psychiatrie qu'ils appellent Affective Immunology, parce qu'il semblerait qu'il y ait donc une base physiologique même par rapport aux émotions et choses comme ça. Donc, et c'est là-dessus que je travaille le plus, parce que c'est ça le travail que je fais en ce moment avec UCLA, parce que, donc du coup, on peut utiliser l'entraînement pour changer l'émotion, puisque il y a tout une affectation physiologique par rapport à ça, parce qu'il semblerait qu'en réalité, c'est la même chose. Tous les systèmes, c'est le même système. Il y en a un qui va du côté là et de l'autre qui va de ce côté-là, mais en réalité, c'est la même chose. Donc, en parlant de ça, ça veut dire que si une émotion et un système immunitaire sont liés, c'est-à-dire que tu peux lier certaines choses avec d'autres. Par exemple, est-il possible que l'anxiété et l'inflammation soient liées? L'anxiété est toujours par rapport au futur. Donc, l'anxiété serait le premier système en place. Donc, l'anxiété serait l'inflammation. Le système de communication avec l'extérieur pour se préparer au système propagatoire et après système de guérison. Donc, anxiété et inflammation. Donc, ça veut dire que l'anxiété peut créer une inflammation, mais ça voudrait dire aussi que l'inflammation peut créer l'anxiété. Donc, peut-être que tu n'es pas anxieux dans ta tête, peut-être que tu es anxieux somatiquement. Donc, il y a forcément une anxiété cognitive et une anxiété somatique. Et donc, tu n'es pas anxieux peut-être dans ta tête. Simplement, tu as un niveau d'inflammation au niveau du corps qui est trop élevé à cause de nourriture ou quoi que ce soit. Pollution. Tu vois ce que je veux dire?
Et étant donné que cette anxiété, elle est tournée sur le système prédictif et donc sur le futur,
Bonjour.
on en revient aussi à cette notion de discours intérieur et puis d'erreur somatique. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du principe d'énergie libre de Carl Friesen.
J'ai fait des podcasts entiers sur le sujet.
Ok, bon bah écoute, je les mettrai en lien comme ça, parce que là, si on reparle là-dessus, ça, on est reparti pour 1 heure, mais je les mettrai en lien dans l'article lié pour ceux que ça intéresse.
C'est la base de mon travail, l'énergie libre. Les
Ok,
erreurs somatiques,
bah.
c'est la base entière de mon travail, c'est sur l'énergie libre de Carl Friston. Donc oui, je suis très, très, très versé sur le sujet. Ça a été vraiment la base du travail. Et c'est là-dessus qu'en vérité, Affective Immunology, tout ça, est basé, c'est sur l'idée de l'erreur somatique. Et donc tout mon travail sur l'autisme est fait sur l'énergie libre.
Ok. Trop cool. Ben, j'avoue, j'ai pas écouté ces podcasts-là. J'ai
Il y a
écouté ceux
énormément.
avec ce bon Jack qui a eu la gentillesse de nous mettre en relation avec qui j'ai enregistré un épisode, l'épisode
Demande-lui.
81. Et donc un super épisode. Et d'ailleurs, j'enregistre demain avec lui. Je passe demain sur son podcast pour parler de plein de choses et notamment de génomique. Julien,
donc, c'est... sur le côté énergie libre, il va rire quand tu quand, de Carl Feston. Il va commencer à rire quand tu vas lui dire ça parce que tu vois, il va dire oh ah ouais, c'est mon ouais, chat. Bah... Je bosse là-dessus. Ça doit faire au moins 6 ans, 7 ans maintenant.
Écoute, j'ai un ami, Pierre Dufraisse, que tu connais aussi, oui. qui aime beaucoup aussi les travaux de Carl Friston et l'énergie libre. On en a pas mal parlé ensemble.
C'est le plus grand génie qu'on ait eu depuis Einstein. Les gens ne connaissent pas, mais c'est...
Pierre Dufraisse? Non, je...
Carl Friston est un être... S'il y a un extraterrestre sur Terre, c'est lui.
Ok.
Mais, la personne la plus brillante que j'ai vue depuis... Oh, c'est extraordinaire. Son travail, c'est ça qui a vraiment changé qui m'a permis de faire ce que je fais alors actuellement. C'est ça. Et donc, j'ai mais même tout mon système sur l'autisme est basé par rapport à là-dessus parce que, il y a un Canadien qui a des idées sur l'autisme que j'aime énormément. Le mec, c'est vraiment, s'il est très, très grand au niveau de l'autisme, je pense qu'il a tout à fait raison. Et ils expliquaient ça sur ce qu'ils appellent le hyper-prior versus hyper-prior. Prior, c'est ce que tu crées après avoir dealé avec une erreur somatique. Et donc, l'idée, c'était par exemple que tout ce qui est schizophrénie, c'est un hyper-prior et autisme, c'est un hyper-prior. Il y a tout un truc par rapport à ça. Mais ça, c'est lié sur l'erreur somatique. Donc, c'est basé sur le travail de Carl Friston.
Donc je vais quand même faire une parenthèse sur le sujet parce que finalement on a parlé pendant 5 minutes de ces erreurs somatiques et de l'énergie libre et on n'a même pas dit ce que c'était. Donc vraiment en 3 mots très vulgarisés, l'idée c'est que le cerveau est sans cesse en train de faire des prédictions sur la façon dont les choses vont se passer.
Le système. C'est valable au niveau de la cellule, au niveau cellulaire. C'est très important que les gens se comprennent ça. C'est qu'une cellule fait des calculations. C'est pour ça que je parlais de Markov Blanket et tout ça avant. C'est que c'est pas le cerveau, c'est la cellule qui le fait. Le cerveau n'est simplement qu'une extension d'un travail qui se fait au niveau de la cellule.
Donc le système fait des prédictions. Et, ouais. Et après, bah, si tu veux, tu peux continuer, hein, puisque visiblement, tu es quand même plus calé que moi sur le sujet. Mais donc l'idée, c'est que parfois, le système va toujours chercher à ce que ses prédictions soient justes. Et donc, si c'est pas le cas, ça crée une erreur somatique. Et donc, le système va toujours essayer de réduire l'énergie libre, donc c'est-à-dire l'énergie perdue, à créer des prédictions et à devoir réadapter le système si la prédiction est fausse. Et donc, si tu te dis, par exemple, pour reprendre l'exemple du bain froid, que l'eau va être froide, bah, même si elle n'est pas aussi froide que ce que tu le pensais, elle va te sembler aussi froide que ce que tu l'avais prévu pour éviter et diminuer cette énergie libre, cette énergie perdue. Avoir adapté le système à un contexte, à un environnement qui, en réalité, s'est pas révélé parfaitement exact. Donc, en fait, le système préfère avoir raison plutôt que de se conformer à la réalité.
Ouais, c'est-à-dire qu'il va attribuer un pourcentage par rapport... c'est un système de pourcentage, en vérité. C'est-à-dire qu'on va faire une prédiction et on va regarder, il va avoir une après qui va être mise en conflit avec l'observation du monde extérieur et voir s'il y a une grosse différence entre les deux ou pas. Parce que quand la plus grosse la différence entre la prédiction par rapport à l'observation est, le plus il démontre qu'on est incapable de prédire le monde extérieur, donc on est en danger.
Ouais, d'où l'angoisse.
Le moindre l'erreur somatique, le meilleur on est à prédire, le moins on est en danger dans ce cas-là. Et donc l'idée, c'est toujours de pouvoir réduire le pourcentage de l'erreur somatique.
Et donc, et quelque part, en te confrontant à la variabilité.
Oui, parce qu'il faut pouvoir apprendre aussi parce que c'est pas assez d'avoir tort ou raison, c'est une question de pourcentage, bien sûr, mais il faut aussi pouvoir apprendre par rapport à ça. C'est-à-dire que je me suis planté de 20%. Si la prochaine fois je me plante de 15%, ça veut dire que j'ai fait un progrès. Donc, le corps se dit, OK, on va du bon côté. Donc, c'est pour ça que même si on a eu tort à 15%, c'est pas grave parce qu'on fait un progrès. C'est grave, mais c'est, le fait qu'il y ait un progrès va te dire « Ok, tout va bien ». Par contre, si on était à 10% d'erreur et maintenant on est à 15%, ça veut dire qu'on part du mauvais côté et c'est là que le corps va commencer à s'inquiéter plus et donc devoir à gérer ce problème-là. Et donc, ce moment-là, c'est ce qu'ils appellent le « prior ». C'est l'histoire de l'erreur et si on a appris correctement ou pas. Donc, c'est pas simplement l'erreur somatique, c'est comment dealer avec l'erreur somatique qui en vérité est très important aussi. Et donc, il y a tout un système presque d'ordinateur humain, enfin, d'ordinateur biologique qui se fait par rapport à ça. Donc, ce sont des calculations qui ont été faites. En vérité, on a tout un système de probabilité, de mathématiques de probabilité qui démontre que, par exemple, la cellule le fait en fonction de la membrane. La membrane, c'est ce qu'ils appellent un Markov blanket, qui est donc le contact entre l'intérieur de la cellule et le monde extérieur. Et il y a tout un contact entre les deux qui se fait en permanence. Bref. Et après, on part de ce côté-là.
Mais c'est juste pour conclure sur ce sujet-là, ça remet quand même en perspective tout ce qu'on a dit pendant le podcast, notamment vis-à-vis de notre vie qui est trop confortable, que le fait d'éviter des problèmes, etc. Parce que si on comprend que l'erreur somatique est source de stress, d'angoisse, d'anxiété, et que c'est un système du coup qui vise à la perfection, à s'améliorer, eh bien pour lui permettre de se calibrer, il faut lui donner aussi des contextes d'apprentissage. Et ces contextes d'apprentissage, eh ben, ils se trouvent que dans la variabilité, dans le fait de s'exposer potentiellement à des stresseurs.
Oui, c'est-à-dire que quand on ne veut pas changer la prédiction, donc on veut changer l'observation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contrôler le monde externe de manière à ce que l'observation soit d'accord avec la prédiction. Le problème, c'est que ça, c'est un mensonge déjà au départ, parce qu'on ne peut pas changer le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a un moment donné à un autre, l'ours va arriver. Maintenant, quand l'ours arrive, on est encore plus faible qu'avant, on n'est pas prêt. C'est ça le problème à toujours se dire, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours. C'est que ouais, la prédiction a raison, mais le problème, c'est que le jour où l'ours arrive, on est mort. Donc, le système, en
Et donc,
vérité, est fait de manière à pouvoir dealer avant que l'ours arrive, il y a une feuille qui bouge là-bas. Pourquoi? Et donc, quand on commence à dire, non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien, on n'apprend pas à, par exemple, voir la feuille là-bas qui bouge. Et donc, quand l'ours arrive, on est mort. Donc ça a été un système développé sur 4 milliards d'années qui on ne peut pas changer, quoi.
L'image de l'ours, elle est assez sympa, mais donc je fais une autre comparaison plus moderne pour vraiment comprendre ce que tu dis. L'illusion de contrôler le monde, c'est par exemple d'avoir une température à 22 à 21
Oui.
degrés toute l'année chez nous. Et par contre, le fait que malgré tout, cet environnement qui nous semble contrôlable l'est pas, et ben c'est qu'un beau jour, peut-être que t'as la boîte dans laquelle tu bosses fait faillite et tu t'y attendais pas.
Ouais, et puis si on coupe l'électricité, qu'est-ce qui se passe pendant 2 jours? L'idée que l'électricité va continuer à exister est absurde. Je vis au Brésil, ça coupe en permanence.
Oui, mais bon, il fait 40 degrés chez toi.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'air conditionné, tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu es habitué à dormir à 18 et tout d'un coup il fait 30, tu peux plus dormir.
Mais
Ouais, alors qu'en vérité, si dès le départ tu avais dormi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas. On base nos décisions dans l'Occident sur des choses. C'est un peu dangereux, c'est dangereux. Donc ça va contre pas la nature humaine, ça va contre la nature du système. Et donc l'anxiété, dès qu'on commence à avoir un système plus facile à contrôler, l'anxiété va monter naturellement. Parce que la prédiction commence à partir en sucette, quoi. Donc c'est en vérité, tout est une question d'équilibre.
ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Je te propose sur les 5 dernières minutes, j'ai 3 4 questions de fin que j'aime bien poser. Tu m'as dit un petit peu ce qui était ta routine matinale. Est-ce qu'il y a d'autres hacks que tu utilises pendant la journée pour exprimer ton plein potentiel, autres que ceux dont on a déjà parlé?
Non, non. Oui, m'entraîner dur. Toujours, tu vois ce que je veux dire? Non, il n'y a pas méditation et trucs comme ça, mais c'est pas des hacks. Pour moi, il y en a qu'un, c'est s'entraîner dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon truc pour moi, c'est simple. C'est je veux être meilleur demain que je l'étais aujourd'hui. C'est tout. Pas autre chose.
C'est pas mal comme mindset. Est-ce que tu sais, j'aime bien dire que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années, un sujet important dans ta quête
Oui, en
d'exploration,
vérité,
de connaissances?
oui, qui n'a pas l'air important, mais qui en vérité, je pense, l'est. Par exemple, je voyais ça par rapport à CrossFit. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais à Los Angeles, qui est vraiment en 2008, quand CrossFit a explosé, il y avait énormément de petites compétitions, tu sais, même pas régionales, tu sais, le week-end, quoi, des compétitions de week-end à droite, à gauche. Et je trouvais que c'était barjot, parce qu'il y avait des compétitions presque tous les week-ends, quoi. Au moins 2 fois par mois. Je me dis, mais c'est barjot quand même. Je dis, c'est vraiment une mauvaise chose, vous faites tous de compétition. Et maintenant que ces compétitions-là ont arrêté à cause par exemple, de Covid et tout ça, Ça, c'est en train de détruire la communauté de CrossFit. J'ai trouvé ça très très intéressant parce que j'ai vu la même chose au niveau du powerlifting, au niveau du jujitsu et tout ça. C'est-à-dire que une activité développe une communauté pas par rapport aux Jeux Olympiques, aux champions du monde, non, par rapport aux compétitions, aux petites compétitions de week-end qu'il y a partout. C'est ça en vérité qui développe la communauté et qui permet aux gens de s'exprimer correctement. Ce sont les petites compétitions sans trop de stress, mais qui leur permet de s'entraîner plus dur et tout ça. Et je trouve ça fascinant au niveau des êtres humains. C'est tout ce niveau communautaire se fait par rapport aux petites compétitions de base et pas aux grandes comme les CrossFit Games et tout ça. Et donc au début, je pensais c'était une connerie ces trucs-là, et en vérité, j'avais complètement tort. C'est la seule manière pour un sport d'exister. Ce sont les petites compétitions locales, quoi. Et ça permet de créer une communauté très forte. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est marrant. Ça, dans ma tête, ça marchait pas comme ça. Donc ça, j'ai eu tort là-dessus à 100%. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Les trucs qui vraiment récemment où je me dis, c'est plutôt du côté négatif. C'est par exemple tout ce qui est études et tout ça. Et je peux te dire qu'à l'heure actuelle, la plupart des études et que ce soit surtout au niveau médical, tu sais, tout ce qui est pilule et tout ça, c'est une question d'argent. La plupart des études maintenant sont fausses. C'est-à-dire que il y a un Allemand qui a passé, tu sais, qui a développé un algorithme pour pouvoir tester les trucs et qui te disait que 70% des études sont soit copiées, soit créées complètement parce qu'ils utilisent beaucoup, tu sais, AI et tout ça pour les faire. La plupart des études à l'heure actuelle sont créées pour une raison simplement. Pour que les personnes du niveau académique puissent avoir des papiers, parce qu'ils ont besoin de 12 papiers ou 20 papiers de manière à avoir, tu sais, leur boulot comme professeur ou truc comme ça. Et la plupart des études à l'heure actuelle ne sont pas lues par les gens et ne sont pas testées, ne sont pas recréées. Normalement, une étude devait être faite une deuxième fois pour voir si ça marche. 80% des études à l'heure actuelle en général ne peuvent pas être retestées parce que ça marche pas la deuxième fois. Il y a tout un truc de, je sais pas si c'est de la flemmardise ou si simplement, tu sais, des trucs comme ça, mais la science est à un moment très, très dangereux. Et ça se voit au niveau médical plus que tout. Tout est lié par rapport à l'argent. Et donc, on voit ça au niveau du fitness parce qu'on est toujours en descente par rapport à ça. Et tout le monde est en train de parler des études sur YouTube. La science, les études et tout ça. Je dois te dire, 80-90%, c'est des conneries. C'est pas vrai, c'est simplement ils changent les numéros ou ils te donnent pas les contextes ou tout est lié par rapport à ce que la personne veut dire, la conclusion. Au lieu d'avoir une étude qui te donne une conclusion, il y a une conclusion d'abord qui te donne une étude. Ça, c'est la nouvelle manière de faire la science à l'heure actuelle.
Ouais, tu cherches à confirmer ce que tu crois déjà plutôt qu'à chercher quelque chose de nouveau.
Quand
Tu me disais
l'argent est
que
vendre, l'un ou l'autre.
tu me disais que ta fille t'avait appris à te lever tôt. Est-ce que il y a s'il y avait une leçon de vie que tu aimerais lui transmettre, ce serait quoi?
J'étais très flemmard pendant très longtemps. On va dire que c'est parce que je suis français. Il y a un moment donné, il faut bosser, mais dans le sens, tu sais, il faut avoir des résultats. C'est pas assez de travailler, c'est pas assez de, tu sais, d'intellectualiser tout. Il faut, de temps en temps, il faut tester aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, la plupart de mes coachs, je leur dis faire une compétition de powerlifting chaque année. C'est toi qui vas choisir tes numéros, donc il n'y a pas besoin de se stresser. Mais faites une compétition une fois par an, de manière à voir s'il y a un progrès qui est fait. Il faut arrêter de vivre simplement dans un monde d'idées. À un moment donné à un autre, il faut avoir une preuve pratique qu'on est en train de faire des progrès. Il n'est pas suffisant de se dire oui, je suis mieux qu'avant. Non, non. Ça veut dire quoi mieux? Si je veux lui donner une chose, c'est de comprendre qu'il faut pouvoir définir le succès. Le succès, c'est quoi? Pas simplement, oui, je veux ça. Non, non, non. C'est quoi le succès? Par exemple, pour Janina, la dernière compétition, c'était le deadlift à 190 kilos. Elle a passé le deadlift. Ça veut dire que l'entraînement fonctionne. Tu veux dire, tac, 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 tout ça. Mais il y a un moment donné, il faut pouvoir tester. Il faut pouvoir, dès que j'ai des clients, à moi, je leur demande toujours la même chose. C'est le succès, what does success look like? Le succès ressemble à quoi? Et pas simplement, ouais, je voudrais. Non, non, non. Donne-moi une idée vraiment, tu sais, concrète de succès. On commence là. Parce que je veux dire, et ça, je voudrais pouvoir lui donner parce que sans cette idée concrète de savoir exactement ce qu'est le succès, on n'arrive pas à se concentrer sur quoi que ce soit. Ça, c'est très important.
Est-ce qu'il y aurait un prochain invité francophone que tu aimerais me conseiller d'inviter sur Limitless Project pour parler de potentiel humain?
Je connais plus personne en France.
Ouais, je
Anglophone,
me
oui.
doutais.
Françoise, tu sais, la seule personne avec qui je parle,
Jack.
c'était d'abord Jacques ou deux ou trois copains en France, c'est tout. Je commence à, en vérité, j'ai énormément de Français qui m'envoient des messages et donc je voudrais aller du côté France de plus en plus, mais faut dire ce qui est. J'ai très peu travaillé avec les Français. Je suis parti en 98, tu vois ce que je veux dire? La Coupe du
Et
Monde.
justement, si on veut travailler avec toi, où est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut lire tes actus, tes recherches, se faire
Exact.
coacher,
Déjà, parce que
etc.
tu vas faire toute la traduction française de ce que je fais parce que les Français ne parlent pas l'anglais. Donc, si
Qui
vous parlez
ça?
pas l'anglais, avec Jack.
Ah, Jack, ok.
Ouais, parce que Jacques a, s'il va faire toute la traduction française de tout ce que j'ai fait en anglais, parce que ça, je vais pas le faire. Je vous le dis tous tout de suite. La traduction française, c'est Jacques qui va la faire. Et donc, tout ce qui est anglais, ils peuvent me voir sur Instagram à StrongFitOne, et de là, il y a tous les liens. Mais tout mon travail se fait en anglais, avec un accent français, mais quand même en anglais.
Et sur la version française, ça va être sur un site? Où est-ce qu'on peut accéder à
Oui,
ça?
sur Jacques. Donc, c'est sur le site de Jacques et tout ça.
C'est sur le site de Jack?
Ouais,
Ok.
on commence à bosser ensemble parce qu'on va faire tout un mentoring programme. Tout le système StrongFit va être fait en français, mais c'est Jacques qui est en charge de tout ce qui est traduction et tout ça. Il va m'aider énormément. Tout mon travail en France va se faire avec Jacques. Ah, en France, donc côté francophone, va se faire avec Jacques.
Ok, donc je mettrai le lien de ton Instagram et puis je mettrai le lien des
Super.
programmes de Jack s'ils sont sortis,
Bosse avec
si
moi
c'est sorti d'ici là.
depuis 6-7 ans, je crois, maintenant. Et
Ok.
donc, c'est avec sa podcast à lui que je me suis fait allumer par tous les mecs en France. C'est pour ça que j'ai dit, OK, bye! See you guys!
Bon, écoute,
C'est marrant,
moi,
ça.
je pense que mon audience est plus bienveillante, peut-être moins anxieuse. En tout cas, je te remercie pour toutes les perspectives de réflexion que tu nous as apportées, Julien. C'était très, très riche, très dense. On a parlé de sujets passionnants. Et comme je les aime, qui, tout en étant holistiques, se relient les uns aux autres, tu vois. Je trouve qu'on souffre un peu d'une épidémie d'hyperspécialisation et de réductionnisme. Et que le fait de remettre du liant et de voir le vivant comme une symphonie plutôt que comme des
Oui.
systèmes indépendants les uns les autres, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît et m'inspire beaucoup, et tu le fais avec brio, et puis tu parles en plus de sujets qui sont originaux, tu vois, originaux, pas dans le sens perché, mais plutôt dans le sens où tu t'apportes de nouvelles perspectives dans la compréhension du système, justement, et donc je te remercie pour ça, je te remercie pour ta générosité, ton authenticité, c'était un vrai bon moment.
Non, je t'en prie. En parlant de ça, c'est une très bonne manière de formuler la chose. Le système est une symphonie. C'est une très belle manière de formuler la chose.
Merci. Ben, ça sera peut-être le titre du podcast.
Merci beaucoup.
À bientôt, Julien.
À bientôt.
Tu connais l'effet papillon? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.